France Maghreb.
À la une de ce grand forum pour ce 10 février, mort de la petite Vanille. Pensez-vous qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau de l'aide sociale à l'enfance? On en parle avec Gamal Abina, avec Rudy Kazi. Et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000, vous répondez à cette question sur Facebook où il y a beaucoup de commentaires. Merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le grand forum pour ce lundi 10 février. Bonnes vacances à toutes ceux et tous ceux qui sont en vacances, à savoir... bah les Parisiens par exemple, hein, bonnes vacances pour 15 jours durant, c'est parti. Aujourd'hui pour m'accompagner dans ce LGF, il est toujours studieux avec ses petits papiers, il est prêt à chaque fois pour dégainer tout au long de cette émission, à apporter son savoir, monsieur Rudy Kazi, comment ça va?
Ça va bien, Christophe.
Les forces républicaines aujourd'hui, il est content Rudy parce qu'on va recevoir des mecs qui rappellent un peu son enfance, Stommy Bugsy notamment, entre autres tout à l'heure, hein, voilà, la grande famille du Sector A et du Ministère Hammer pour les plus anciens et les connaisseurs. Lui, il dégaine plus vite que son ombre, à chaque fois il est là et on n'est pas à l'abri d'un dérapage signé Gamal Abina, mais toujours bien contrôlé. Salut Gamal.
Salut, ça va?
Comment ça va?
Tranquillement, comme d'hab.
Bon.
C'est les vacances, il fait beau. Ah non, je me trompe.
Non, il fait pas beau, non. Pas vraiment. Pas vraiment. En tout cas, pas ici. La tempête a traversé le nord du pays et elle a été particulièrement un peu violente quand même, il faut le dire.
Absolument.
Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander aux Parisiennes et Parisiens d'éviter de mettre des pots de fleurs sur les balcons lorsqu'il y a une tempête. Parce que ça peut, non, mais tu rigoles, mais ça peut être extrêmement dangereux quand tu te prends un pot de fleurs sur la tête, ça peut tuer.
Donc, ça a tué.
Voilà, ça a tué. Et il y a eu un accident de trottinette aussi hier. Voilà. Ouais. D'ailleurs, en parlant de trottinette, ça fera l'objet d'une question dans le quiz tout à l'heure. Je ne dis que ça. Bon, alors messieurs, évidemment, ce week-end, ça a été un week-end assez mouvementé. Il y a eu cette alerte enlèvement lancée samedi soir. Et c'est la première fois que l'issue est fatale et tragique, puisqu'on va parler de la petite Vanille. Pensez-vous qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau de l'aide sociale à l'enfance? C'est la question que l'on vous pose clairement aujourd'hui. Et vous êtes en grande majorité à dire oui. On va rappeler que cette petite fille donc a été enlevée par sa maman vendredi après-midi. Une maman qui visiblement a des troubles psychiatriques et qui a avoué à l'issue de la garde à vue qu'elle avait effectivement étranglé cette petite fille de 1 an. Et sachez que donc c'était pas la première fois d'ailleurs qu'elle enlevait un enfant, c'est parce qu'elle en avait plusieurs des enfants, et elle était suivie de manière psychologique, psychiatriquement, et donc cette fille a été arrêtée samedi matin, et on a retrouvé la petite sous les indications de la maman dans une benne à vêtements du côté de Angers ce samedi. L'issue est fatale, et donc vous êtes quand même à dire 87% à dire oui, qu'il y a eu des dysfonctionnements, c'est ce qui apparaît en tout cas en première vue de ce que l'on a vu. Alors quelques commentaires très intéressants, ou pas d'ailleurs, de nos auditeurs sur Facebook. Évidemment, l'enfant a disparu vendredi soir, la lettre enlèvement a été déclenchée seulement le samedi soir, sachant que la mère avait des antécédents psychiatriques. Voilà qui pose question. Et puis d'autres commentaires, beaucoup de commentaires sur Facebook, vous avez été très nombreux, et nous dit Fabien, il n'y a pas que les assistantes sociales en faute, il y a aussi le juge qui a autorisé le droit à ce qu'elle prenne sa fille seule. Alors, sachant quand même qu'il y a eu beaucoup de commentaires durant cette alerte enlèvement, notamment la chose suivante, oui, on peut pas parler d'enlèvement puisqu'il s'agit de sa maman. Bah oui, malheureusement, mais sa maman, elle a tué. Donc, parfois, quand il y a une alerte enlèvement, bah c'est qu'il y a une raison, forcément, Rudy.
Ouais, tout à fait, ouais. Je voulais juste revenir un peu sur les faits, parce que peut-être que nos auditeurs n'ont pas trop bien suivi l'affaire. En fait, donc il s'agit d'une femme qui était suivie pour des troubles psychiatriques, qui avait plusieurs enfants, enfin en tout cas de ce qui remonte, elle en avait deux, donc deux filles d'ailleurs, notamment. Et donc il se trouve que vendredi, elle a récupéré sa fille pour comme un droit de visite, pour pouvoir la voir. Et il se trouve en fait qu'elle est prise en charge dans un foyer. Donc en fait, les rendez-vous se font au foyer dans lequel elle créchait. Pardonnez-moi l'expression un petit peu cavalière.
Qu'on appelle les audiences médiatisées.
Ouais.
Les rencontres médiatisées, pardon.
Voilà, plutôt des rencontres, voilà. Et donc suite à ces visites, elle avait la possibilité donc de se promener avec sa fille etc. Donc en fait, ça se passe vendredi dernier à 11h, elle quitte le foyer avec sa fille, et en fait, elle devait revenir à 17h30. Faut savoir que ce type de visite peuvent durer jusqu'à 48 heures. Jusqu'à 48 heures, ça peut durer, sauf que là, a priori, il était convenu qu'elle revienne à 17h30. Elle s'est pas pointée à l'heure du rendez-vous. Donc donc au foyer. Et donc on pense qu'elle a probablement tué son bébé entre 13h et 15h.
Oui.
Le problème c'est que après elle quitte Angers pour aller à Nantes vers les 15h et jusqu'à samedi en fait on n'a pas de nouvelles d'elle. Voilà. En tout cas entre 17h30 jusqu'à ce qu'on jusqu'à ce que l'alerte soit déclenchée, on n'a pas de nouvelles d'elle.
Et l'alerte a été déclenchée que samedi soir tard.
Samedi soir en fin de soirée à la demande donc du procureur de la République d'Angers.
Ouais.
Donc effectivement ce qui quand on suit un peu les faits, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on se dit c'est pas la première fois. Alors après moi dans ce que j'ai lu, on parle pas d'enlèvement mais déjà de problèmes de retard au moment où il faut ramener l'enfant dans sa famille d'accueil.
Il y a eu enlèvement d'un premier enfant qu'elle avait ramené hein.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ok. Bon, après, c'est peut-être les infos sont un petit peu contradictoires. On recoupera tout ça, mais en tout cas, effectivement, il y a eu un premier signalement à ce sujet. Si à ça, on ajoute le fait qu'elle a des troubles psychologiques, on se pose des questions. On se dit pourquoi continuer en fait à confier l'enfant, les enfants à une dame qui visiblement n'a pas la capacité de pouvoir s'en occuper. Ensuite, effectivement, c'est le déclenchement de l'alerte enlèvement qui a été fait assez tardivement,
quoi, ouais.
Le samedi soir, alors que depuis 17h30 la veille, on attendait que la dame revienne avec son enfant. Mm. C'est vraiment étonnant. Bon, en tout cas, ça a été entre guillemets un mal pour un bien, parce que l'objectif de retrouver l'enfant en vie, malheureusement, n'a pas pu être réalisé. Et c'est la première fois que, après une alerte enlèvement déclenchée, on ne retrouve pas l'enfant, et du moins l'enfant perd la vie. Mais au moins, ça a permis de retrouver, en fait, la dame. Après de multiples témoignages, une centaine de témoignages, dont un qui a donné effectivement le témoignage qui a permis de retrouver Madame Stéphane, Nathalie Stéphane, notamment. Donc voilà, c'est triste, malheureusement.
Plus que triste. Mais on parle aussi beaucoup des dysfonctionnements des assistantes sociales, des services sociaux, de la SE effectivement. Mais on peut aussi parler de problèmes au niveau des juges qui prennent peut-être pas en considération les problèmes de cette dame en l'occurrence. Mmh. Et cette dame, visiblement, on est en train de savoir maintenant si elle est en capacité d'être jugée. Elle risque la perpétuité. Oh là, j'y arrive plus.
Perpétuité.
Merci beaucoup. Gamal, vraiment, il y a des failles quand même. Et on le voit d'ailleurs au travers d'exemples qu'on peut connaître aussi un peu moins médiatisés autour de nous. Mais il y a des failles quand même. On voit qu'aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être évitées. Et les services sociaux sont dépassés, parfois incompétents pour régler certains problèmes. Hein.
Bah, le problème, c'est qu'on parle de services sociaux. Donc d'abord, d'abord, c'est les questions sociales, effectivement, liées à des dérives dans la famille. Il ne faut pas oublier que la mère n'avait pas la garde des enfants, puisque c'était le père qui les gardait déjà. Donc ça veut dire que c'était déjà un indicateur qu'ils ont fait un travail en amont où il y avait un risque.
Elle était
déplacée en famille d'accueil.
Oui, hein, famille d'accueil, mais ça ne change rien au fait qu'elle n'avait pas la garde de son enfant. Elle était, dans un dispositif
Où elle avait. Sait pas où est-ce qu'il est, le gars, il n'a pas voulu reprendre.
Oui, on voit que c'est une personne c'est un cas social littéralement un problème. Ensuite, une assistante sociale, c'est pas une psychologue, encore moins une psychiatre. Là, on parle de psychiatrie. C'est la raison pour laquelle elle pourrait ne pas être jugée, parce que un infanticide, c'est comme ça qu'on appelle ça quand tu as perdu son enfant.
Ouais.
C'est pas courant, mais ça arrive. C'est connu, hein, c'est un phénomène qui est très connu. Souvent, pour des raisons de folie ou de schizophrénie. Enfin, tout un tas de phénomènes qui conduisent à ça, où elle voit autre chose dans l'enfant que ce qu'il est réellement. Et surtout, comment on peut demander à une assistante sociale de pouvoir faire un diagnostic, elle peut pas. Le dysfonctionnement, s'il devait y avoir un dysfonctionnement, et je ne crois pas qu'il y ait dysfonctionnement, je vais être très clair, c'est une non-communication entre l'assistante sociale, le psychiatre ou la psychologue qui s'occupait d'elle, et le juge d'instruction qui n'a pas chapeauté le dossier. Le problème du juge d'instruction, c'est que le samedi, il dort, il n'est pas là, il ne travaille pas les juges d'instruction. Donc quand ils font une alerte comme celle-là, ils vont l'appeler chez lui. Donc là où on peut s'interroger, c'est savoir pourquoi il n'y a pas de veille, de veille judiciaire en l'occurrence, pour éviter effectivement d'attendre si longtemps. Et puis après, de toute façon, quand elle a décidé de tuer sa fille, quoi qu'il arrive, qu'il y ait ou pas d'alerte, ça changeait absolument rien au fait que la fille aurait été retrouvée morte. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est savoir comment prendre en charge des gens qui ont des problèmes psychologiques graves, comme c'est le cas de cette mère, et qui ont... Elle a su quand même endormir tout le monde en mettant une lettre de sorte de lettre presque dans
le suicide. Oui, qu'on a retrouvé à domicile chez elle.
Oui, avec je vous aime et tout. Enfin, c'est symptomatique de quelqu'un qui a l'intention de se suicider, pas de suicider sa fille. Donc pour le coup, il faut se poser la question de savoir à quel genre de personne on a affaire. Et puis surtout, c'est une question psychiatrique. On n'est plus dans le psychologique, on n'est plus dans le social, on est dans la psychiatrie.
Mais après, en ce qui concerne le fonctionnement de tout ce qui est assistante sociale, etc., c'est vrai que dans d'autres domaines, notamment tout ce qui est centre de prise en charge pour les enfants à problème et les ados à problème, c'est vrai qu'il y a eu une déconcentration totale à ce sujet, en fait. C'est-à-dire, c'est plus l'État qui chapeaute, maintenant c'est les régions et les départements qui vont avoir la charge de mettre en place tout ce qui est centres sociaux pour accueillir ces enfants. Et il me semble que dans le cas effectivement des enfants qui sont placés, là aussi, ce n'est plus l'État qui en a la charge. Enfin, quand je dis État au sens gouvernemental et pas au sens régional, des concentrations, etc. Donc voilà. Et donc du coup, ce qui pose problème, c'est le manque de moyens auxquels font face donc les collectivités territoriales dès lors qu'elles doivent se munir des moyens nécessaires pour prendre le problème à bras le corps. Donc c'est toute une chaîne en fait de petits dysfonctionnements, outre le fait que la maladie psychologique de certaines personnes peuvent jouer aussi sur même dans un cadre où tout serait pris en charge normalement. Il y a un questionnement aussi sur cette facilité que l'État a eu à décharger cette responsabilité auprès des collectivités territoriales qui elles aussi accusent le coup en termes de moyens de financement. On sait que tout ce qui est subvention a baissé à tout point de vue. Donc voilà, là aussi l'État doit s'interroger sur l'aide qu'elle apporte aux enfants et à la protection notamment. Et donc,
il faut préciser une chose quand même.
Ouais, précisons.
Il y a une précision à apporter. Au niveau juridique, on n'est pas responsable devant la loi lorsqu'on est fou. Lorsqu'on est
aliéné, c'est ça qu'elle pourrait échapper.
Donc, elle peut échapper, voilà.
Elle peut être hospitalisée à vie.
Oui, après, une hospitalisation à vie. Et là, en l'occurrence, la question qui se pose, c'est pourquoi des gens et de plus en plus de personnes perdent la raison. Il y a toujours un taux normal, mais là, ça s'accélère parce qu'effectivement, il y a un malaise généralisé sur la question sociale. Et quand on parle de moyens qui disparaissent pour traiter ces questions-là, c'est vraiment les moyens d'État parce que l'État est surendetté et qu'évidemment, ils font les économies sur le dos de qui, sur
le
dos des plus
faibles. Le cas de Nathalie Stéphan, c'est pas une dame qui a pété les plombs depuis qu'elle est enfant ou qui est née avec des problèmes psychiatriques. Apparemment, elle se revendiquait comme elle-même travaillant dans le social. Et après, je sais pas, il y a eu des fois il y a aussi des antécédents dans la famille, un contexte familial qui fait que tout ça c'est vrai que ce sont des pistes à étudier, mais c'est vrai qu'on a l'impression des fois que tout en fait c'est un peu on a l'impression que on regarde la vie des autres mais sans se sentir impliqué dans ce qui se passe. Il y a une démission de l'État, je trouve, à ce niveau.
Histoire terrible en tout cas que nous évoquons aujourd'hui, c'est l'histoire de la petite Vanille âgée de 1 an retrouvée dans une benne à vêtements. Elle a été étranglée par sa maman. 39 ans, Nathalie, étouffée.
Avec un coussin visiblement.
Bon, et voilà, donc terrible. Y a-t-il eu dysfonctionnement? C'est la question que l'on vous pose. Dysfonctionnement des services sociaux et de la justice aussi. Hein. Eh bien, vous nous appelez pour nous dire vos commentaires au 01 40 33 9000 pour recueillir votre avis qui nous intéresse évidemment. 01 40 33 9000. Je voudrais aussi qu'on parle un peu, qu'on fasse un petit aparté sur les commentaires que j'ai pu lire, que nous avons tous pu lire durant cette alerte enlèvement qui a démarré. Et c'est vrai que pour le coup, tout le monde joue le jeu et ça marche, ce dispositif, plutôt bien. D'ailleurs, c'est à chaque fois couronné de succès, sauf, et là il fallait bien une exception, cette fois-ci, parce qu'on a retrouvé cet enfant, cette petite fille morte. Ceci étant, les commentaires, c'est « Oui, comme il s'agit de sa maman, en fait, je ne partage pas parce que on ne s'agit pas d'un enlèvement. » Ben voilà. Voilà ouais. Ce type de commentaires. D'où peut-être il serait intéressant de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de l'ouvrir parfois. Et les réseaux sociaux aujourd'hui nous font constater quand même que derrière un clavier on peut dire parfois n'importe quoi et des choses qui peuvent avoir des conséquences quand même. Bien sûr. Que peut-être que le fait de ne pas partager, s'il y a 10, 15, 20, 50, 100 personnes qui font ça, bah peut-être que le dispositif aussi peut peut-être être amoindri. Donc il faut faire attention quand même quand on parle d'un enlèvement, quand on déclenche une alerte enlèvement, c'est qu'il y a une raison, hein. Il faut insister là-dessus, Rudy.
Ouais, tout à fait, ouais. Allô ? Ouais, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a eu une alerte enlèvement dans le cas précis d'une personne qui a des troubles psychologiques, et c'est peut-être ce qui explique le déclenchement tardif de cette alerte, parce que jusqu'ici peut-être qu'on pensait que la maman allait ramener l'enfant. Ouais. On disait bon, elle a déjà eu des petits soucis, mais elle a pas enlevé l'enfant pendant des jours et des semaines, quoi. On a pas mis toute la police sur le coup pendant des jours et des jours pour la retrouver. Donc c'est peut-être ce qui explique cette alerte d'enlèvement tardif. Après, effectivement, c'est quand même triste parce que bon, moi par exemple, je suis père de famille et quand je vois la photo défiler de la petite, enfin c'est vraiment terrible. Ouais. Mais voilà, on vit dans une société où il y a des multiples dangers et on a l'impression que plus le temps passe, moi, on se préoccupe en fait de la vie des gens, on met des organismes en place, ça roule, tout fonctionne, etc. Et puis après, quand les moyens baissent, on se rend pas compte en fait donc des répercussions que ça peut avoir sur le traitement des personnes, que ce soit des personnes âgées ou des enfants.
Bon, on va prendre un appel au standard 01 40 33 9000. C'est notre docteur préféré qui est avec nous. Bonjour docteur.
Oui, bonjour de Bruxelles mes amis.
Bruxelles,
bonjour.
Oui.
à vos invités. Je fais rapide. Là, j'ai une casquette médicale. Là.
Ah bah, c'est donc, ça tombe bien.
Voilà, ça change un peu la politique. Là, donc, j'attire votre attention en tant d'obstétricien que je suis, c'est-à-dire je suis accoucheur, en mettant chirurgien gynécologue. Dans le monde entier, y compris chez nous en Europe, on appelle ce qu'on appelle la maladie blues, récemment, depuis une vingtaine d'années, du postpartum, c'est-à-dire les femmes qui accouchent.
Ouais.
Donc, dès la sortie de table d'accouchement, tout ça, surtout dans les sociétés occidentales, elles pètent les plombs. Donc, on essaie de... Bon, ça, c'est guérissable, c'est-à-dire ça va d'une légèreté, d'une petite légère, donc, blues, jusqu'à grave. Ça, c'est concernant ça. Mais là, le cas actuel dont vous traitez, c'est encore autre chose. C'est les femmes qui congèlent sans connaître son entourage, leur bébé. Ça, vous avez entendu ce qu'on appelle la congélation.
Oui, oui.
Donc ça, c'est encore une autre pathologie. Donc je laisse à mes amis les psychiatres de traiter. Alors, concernant ce cas particulièrement, c'est-à-dire la dame, elle a fait dans ce qu'on appelle une psychose concernant ses accouchements, c'est-à-dire une fois que les bébés sont là, tout ça, elle regrette d'avoir ses enfants. Mais là, il n'y a pas, c'est-à-dire que on peut pas. Il y en a. J'ai entendu à France 5 quelque chose comme ça hier. On peut pas empêcher ces gens-là d'aller quand même voir leurs bébés, enfin leurs enfants.
Bien sûr.
Voilà donc à peu près ça. Donc, mais c'est vrai, c'est une pathologie, c'est exactement comme le mort subi de nourrisson dans notre société occidentale depuis 30 ans.
On peut interroger d'ailleurs, c'est plutôt louche.
Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Actuellement, on a des pathologies qui évoluent, voilà, pardon.
Oui,
voilà.
Merci docteur. Pour,
hier,
ouais.
Vendredi, j'ai parlé de coronavirus avec monsieur Tariq Mahmoud.
Donc, Bsartek,
le
docteur.
Le sujet a été très bien traité, voilà.
Très
donc,
bien,
bravo. Allez, à bientôt.
À bientôt, merci. Docteur. Merci. 01 40 33 9000, évidemment, pour nous appeler parce qu'on parle de cette affaire, de cette petite fille de 1 an. Et c'est vrai, comme ça, de but en blanc, on peut se dire, mais comment, quand on est une maman, comment peut-on s'en vouloir du mal à son enfant?
Bon, moi, j'aurais dire que...
Non, mais je vous pose la question bêtement. Hein,
oui, mais je dis simplement que j'ai vu plusieurs... autour de nous, on voit toujours des mamans avec leurs enfants. C'est un rôle extrêmement difficile pour une maman d'avoir un enfant, parce que j'ai une amie, par exemple, qui a eu son enfant il y a eu 9 mois maintenant. Elle dort 30 minutes à chaque fois, elle est réveillée. C'est-à-dire que son enfant est c'est un enfant suragité, et elle ne peut dormir que 30 minutes. Au bout d'un moment, effectivement, il y a des réactions qui sont souvent violentes. Le docteur vient de faire référence à deux choses. La question du blues après accouchement. Ça conduit pas à la mort des enfants. En revanche, il y a une autre question qui commence à poser question. C'est la question, effectivement, de cette fameuse mort subie du nourrisson, pour lesquelles il y a très peu d'enquêtes, et on se rend compte qu'il y a des femmes qui pètent littéralement un câble et qui tuent leur enfant. On l'a vu que dans ce cas-là, elle l'a étouffé, ça arrive souvent, ça. Alors. On n'en parle pas parce qu'effectivement, le rôle d'une mère est un rôle très difficile. Dans la société occidentale d'aujourd'hui, une mère est seule face à son enfant. Il n'y a pas la famille, il n'y a pas les amis, il n'y a pas le village autour. Donc elle se retrouve seule à devoir gérer des cris d'un enfant, des réactions difficiles. Et il y a des mères qui supportent pas parce qu'elles sont pas faites pour ça, tout simplement. Donc évidemment, ça explique des choses, ça ne justifie en aucun cas. Mais ça explique que la solitude de certaines mères face à leur enfant peut conduire à ce genre d'exaction, malheureusement.
Mais comment peut-on justement
pallier
parce que
ça.
L'État ne peut pas tout faire, je veux dire.
Que non.
Voilà.
Oui, mais le problème de l'État, c'est plus au niveau du dysfonctionnement d'un appareil public qui cause effectivement des réactions en chaîne comme celles qu'on a pu voir le week-end dernier. Mais c'est vrai que ça interroge surtout par rapport, je dirais, en fait, à un train fou en fait que la société est en train de conduire. Et c'est vrai qu'en fait, on est en train peut-être de créer une société de plus en plus décérébrée. C'est-à-dire en fait, on n'apprend plus aux gens en fait à être des êtres humains. On les apprend en fait à fonctionner de façon très formatée. Voilà, je vis ma vie. Il faut que j'ai ma carrière, etc. Donc, et c'est vrai que dans cette vision carriériste, on oublie effectivement que les enfants, ça répond pas uniquement à une horloge maternelle. Voilà, ça répond aussi à un désir de trouver un prolongement de sa propre vie dans une progéniture, comme ça peut être le cas pour nos parents et nos grands-parents. Et tout ça était à une certaine époque empreint d'une certaine philosophie, sinon aussi empreint d'une certaine vision religieuse. Voilà, maintenant la religion, on l'invite plutôt à sortir du cadre de la société. Bon, voilà, c'est l'évolution en France, y a pas de souci. Mais au milieu de tout ça, il y a aussi la sphère familiale qui se retrouve de plus en plus exclue. C'est ça. Le fait que, par exemple,
mais Gamal pointe le problème de monoparentalité. C'est vrai qu'il y a des femmes de plus en plus qui se retrouvent seules.
Alors, ouais, et je le dis souvent, même dans nos quartiers. Moi, par exemple, dans mon quartier, quand j'étais plus jeune, c'était très rare de voir des mères seules. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Moi, je rencontre même un cas dans mon quartier d'un enfant qui a des petits soucis parce que, bon, voilà, la maman s'est retrouvée seule et il se retrouve même à agresser d'autres enfants à l'école. Et ça, moi, je trouve que autant c'est vrai que la cellule familiale telle qu'elle existait peut-être dans une autre France ou même dans certaines cultures qui sont les nôtres, telles que quand on arrive en France, on est même un petit peu choqué de voir un peu des différences comme celle-ci. Je trouve que on a manqué, en fait, l'État en fait a trop voulu en fait gérer cette sphère-là. On voit même comment l'État s'invite aussi dans la gestion des familles avec des lois. Bon, voilà, la loi contre le service corporel. Bon, on parle de service corporel, mais en réalité, on veut aussi soustraire aussi aux parents la capacité aussi de reprendre leurs enfants de façon parfois un petit peu sévère et stricte. Donc, voilà, c'est ce que l'État a voulu. Et quelque part, ça fait partie des conséquences qui font qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents, même de mères démissionnaires, ce qu'on ne voyait pas
à
une certaine.
Mais moi, j'ai envie de poser une question parce que c'est très très embêtant. Nous avons Hana sur le plateau et les mamans. Donc, j'aimerais bien. Hana, excuse-moi. Je sais quoi, je me fais avoir.
Hana Guézard-Boicaz.
Absolument. Qui est maman. Et je pense que c'est à elle qu'il faudrait poser la question en vérité. Parce que c'est quand même la première concernée, finalement.
Bien vu.
Oui, je suis la seule femme au plateau en ce moment. En fait, c'est une situation. C'est un sujet assez déstabilisant, assez triste. C'est une tragédie qui a eu lieu hier. Malheureusement qu'elle est rare, d'ailleurs. En tant que maman, je suis choquée, je suis extrêmement peinée. C'est des histoires qu'on aimerait vraiment éviter d'entendre. C'est inimaginable, mais ça doit être dur aussi pour la maman. Hein. Je ne lui trouve pas d'excuses ni quoi que ce soit, mais ça doit être extrêmement dur pour elle. Mais je ne pense pas que ce soit à cause de la solitude ou du fait qu'elle se retrouve seule à devoir gérer un enfant. Et ce n'est pas exclusif aux femmes occidentales, parce qu'il y a eu déjà un cas, je me souviens, c'est tellement choquant que je ne peux pas l'oublier, en Tunisie, il y a une femme qui a poignardé son fils, un nouveau-né, 30 coups de couteau ou plus, c'était très très voilà, c'était très agressif. Et c'est pas, on sait très bien que au Grand Maghreb on vit avec, enfin on est des familles nombreuses, on a toujours l'aide de la maman, de la tante, de la voisine, etc. Je pense que c'est plus un problème psychologique, soit un cumul, soit une situation difficile, une situation familiale difficile à gérer. Et c'est un cumul, c'est une explosion. On ne peut pas. C'est-à-dire, si c'est un problème psychologique, il doit y avoir des symptômes, c'est-à-dire un stress, tout qui dure tout au long de la grossesse d'ailleurs, et qui augmente. Hein, et ou vraiment ou des problèmes psychologiques, mais il y a que les docteurs ou l'entourage qui puissent détecter ça. Ça n'a rien à voir avec l'État.
Moi, juste un dernier mot, j'invite aussi à la responsabilité des hommes, parce que cette femme, elle a fait cet enfant, elle a pas fait toute seule. Comment ça se fait que qu'il y ait des hommes, enfin voilà, bon, on connaît un peu le côté démissionnaire des papas, mais c'est aussi symptomatique d'une société où l'homme est de plus en plus démissionnaire par rapport à son rôle et vis-à-vis de ses enfants, mais aussi, je dirais pas de protection, parce que voilà, les féministes
mais tu vas les avoir sur le dos, mon pote,
mais au moins de sécurité et de respect. De sécurité et de respect. Et c'est vrai que moi, la génération de mes parents, ça a commencé déjà comme ça, avoir des papas, parce qu'à l'époque, même si les papas n'étaient pas sérieux dans le couple, ils continuaient, ils assumaient. À la génération de mes parents, les papas, ils commençaient déjà à prendre la tangente et à laisser des mamans seules. Et après, je dis pas que tout est lié à ça, mais ça crée en fait des enfants qui vivent une sorte d'handicap quand ils doivent affronter certaines réalités de la vie. Et dans nos quartiers, voilà, j'ai pu connaître aussi des difficultés du fait que peut-être j'étais pas forcément bien structuré de ce côté-là. Et c'est peut-être symptomatique de beaucoup de choses qui se passent.
Vous continuez de répondre à la question, en tout cas, y a-t-il du dysfonctionnement des services sociaux dans cette affaire, dans cette issue dramatique de la mort de cette petite vanille étranglée par sa maman, retrouvée dans une benne à vêtements près d'Angers. C'était samedi soir à la suite donc de l'alerte enlèvement. Et la maman, donc on ne sait pas encore si elle pourra être jugée, des expertises en cours, si elle pourra être jugée ou pas d'ailleurs. Voilà, affaire à suivre dans cette affaire qui pose bien des questions concernant donc les services sociaux. Bon, alors tout à l'heure côté municipal 2020, nous partirons à Clichy-sous-Bois, les amis. Vous connaissez tous Clichy-sous-Bois, évidemment. Hein, ouais. 2005, Zia Debouna. Mmh. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Clichy-sous-Bois, c'est là que ça s'est passé. Enfin, c'est là qu'étaient originaires les deux jeunes donc de Clichy-sous-Bois. Ali Méziane qui sera avec nous tout à l'heure. Il est candidat à la mairie de Clichy-sous-Bois. Pour tenter de reprendre la mairie, d'apprendre plutôt, ouais. Parce qu'elle est déjà donc c'est Olivier Klein, je crois.
Ouais, c'est la droite.
Ouais, c'est ça. Mm. Non, Parti Socialiste.
Oui, la droite.
Oui. Non, bah, arrête, arrête, t'es gamin. Et dans un instant, on va replonger un peu dans notre enfance, les amis, avec Stomy Bugsy qui sera avec nous, le rappeur engagé, comédien aussi maintenant, ouais. Accompagné
depuis. Ça ne pas aujourd'hui, hein. Pas sur les planches du théâtre, mais au cinéma. Oui, c'était pas son premier.
Oui, d'accord. Oui,
mais d'ailleurs, il produit une pièce d'une amie.
Oui.
Qui a été lancée il y a quoi, 3-4 mois. À voir. Qui parle de la prostitution. J'en dirai pas plus, mais intéressant.
Accompagné d'un grand monsieur aussi qui s'est construit lui sa carrière de comédien. Monsieur David Desclos qui sera avec nous, qu'on avait déjà reçu à l'occasion de la sortie de son livre. Ex-braqueur qui sera donc avec nous dans un instant avec Anna Guézard-Boicaz dans les rendez-vous d'Anna. Et puisque j'en suis annoncé quelques rendez-vous, Amin Radi qui sera avec nous demain, l'humoriste marocain, sera avec nous dans cette émission demain soir à partir de 17h. Soyez les bienvenus, c'est le LGF, Rudy Kazi, il est là, Gamal Abina, il est là aussi. Et vous êtes bien sur France Maghreb 2, l'avantage, c'est pas comme sur Twitter, on s'engueule pas ici. A tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous et en direct. Ravi de vous retrouver en ce lundi et on démarre une nouvelle semaine. Et encore une fois, bonnes vacances à toutes celles et ceux qui sont en vacances. Ils ont bien de la chance et peut-être l'occasion d'écouter le Grand Forum pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'écouter à cette heure-ci. En tout cas, en direct, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici notre rendez-vous préféré dans cette émission. C'est les rendez-vous d'Anna, les amis.
Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna.
Bonjour ma chère Anna, comment ça va?
Bonjour Christophe, je vais bien, merci. Bonjour mesdames et messieurs.
Alors tu n'es pas venue toute seule aujourd'hui, non? Tu te contentes plus que d'un invité, t'en veux deux maintenant.
Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui c'est
elle
un jour spécial.
Elle devient gourmande notre amie Anna, elle a raison d'ailleurs.
Ce sont des invités qu'on attendait avec impatience et beaucoup de personnes nous ont écrit pour, en nous demandant de les inviter. Il faut savoir qu'ils sont très très appréciés. Alors l'un des deux... Et le fondateur du rap en France, l'ex-papa gangster, l'artiste engagé, l'acteur Stomy Bugsy avec nous.
Bonjour.
Comment ça va Stomy?
Bonjour France Maghreb, si vous allez bien.
Bah écoute, on va nickel, ouais, impeccable, quand on te voit ça va.
Très très heureux d'être là.
Ah tu sais que ça nous rappelle des souvenirs, hein, notre enfance, tout ça.
Tu veux me vieillir
déjà? Ça veut dire que t'as pris un peu de la bouteille quoi.
Ouais.
Alors, t'es pas venu seul, Stomy. Anna, il est accompagné de quelqu'un qui est déjà venu ici, d'ailleurs.
Oui, oui, le seul cambrioleur qu'on aimerait voir dans notre salon, mesdames et messieurs. L'humoriste David Desclos est avec nous aujourd'hui.
Salut, mon David.
Salut. Ça fait plaisir de revenir.
Ça marche bien pour toi. Hein.
C'est en train. Je garde les pieds sur terre, mais c'est vrai que ça marche bien.
Et on peut dire que Stomy a été ton porte-bonheur aussi.
Ah oui, mon précurseur, enfin, je sais pas comment. Bah, je sais pas, c'est un tout, quoi. Je sais pas comment le définir, quoi.
C'est vrai que vous êtes comme des inséparables.
Des inséparables.
On est des frères. Il y a une fraternité entre nous incroyable. Et c'est mon associé, c'est mon frère, c'est mon compère. Voilà.
Justement, Stomy, raconte-nous vite fait avant que je laisse Anna poser ses questions. Mais raconte-nous cette rencontre avec David Desclos et le passé dont tout le monde connaît. Comme quoi tout est possible dans la vie finalement. Bah,
David, voilà. Il la raconte mieux que moi, il sait pourquoi. Vous savez tous que David, il a été pendant 8 ans en prison.
10 ans.
10 ans en tout. Voilà, enfin,
ouais. Machallah.
Il est fier en plus.
Non, pas fier. C'est que je les ai fait.
Il a payé sa dette.
Je les ai payés, ils sont faits.
2 ans, c'est important, Stomy.
Et pourquoi je dis ça? Parce que au moins.
2 jours, c'est clair.
Et 10 ans, c'est important pour moi parce que je me dis, ils m'ont mis au placard et au moins, c'est 10 ans que je retire de mes. Au lieu de dire j'ai 40 ans, je dis j'ai 30 ans.
Je vous l'ai dit, il a raconté mieux que moi cette histoire. Donc, il était en prison pendant 10 ans et bon, pendant sa dernière détention, il était en prison avec un ami à nous, un ami de Sarcelles. Et c'est son ami lui a dit quand tu sortiras de prison, David, t'as plein de projets, parce que David il voulait faire une série inspirée sur l'incarcération, tout ça. Il lui a dit dès que tu sors, et ben va voir Stomy. Et dès qu'il est sorti, grâce à Boubou les Calbo qui nous ont mis en contact avec Papis, et ben il est venu me voir. Donc c'est un pote à lui qui était en prison, un pote à nous, voilà.
D'accord. Et justement, David, est-ce qu'il y a un projet sur, je sais pas, de sortir ton histoire au travers d'une série,
ouais.
Par exemple, je pense sur Netflix.
Ouais, on est en plein projet dessus, justement, parce qu'il y a le livre Ma vie un jour, David Desclos, une histoire vraie,
ouais.
Aux éditions Flammarion, qui est en train de bien marcher aux éditions Flammarion. Et là, j'ai été contacté.
Si le destin
le destin n'existe que pour être changé. Ouais. Donc c'est la même affiche hein, que Écrou et de rire. Voilà, c'est la même.
Franchement, il faut aller voir la pièce et faut lire le livre. C'est complémentaire.
Ils sont venus voir la pièce, ils ont vu le livre David Desclos, une histoire vraie chez Flammarion, et de là donc on est en plein pour parler, et donc c'est voilà, on sait que Stomy et moi de toute façon depuis le début on sait qu'on le fera, on le fera, et de toute façon on le fera Stomy et moi ensemble, c'est sûr, on veut être parmi les auteurs.
Ils m'ont promis de me choisir pour jouer le rôle de la juge. Oui.
Ah ouais. Ah ouais, ça peut être sympa ça, tiens.
On a eu des propositions de Luc Besson il y a deux jours, on lui a dit non, on veut le faire nous-mêmes, on veut produire nous-mêmes, Luc, ouais, laisse-nous tranquille.
Ouais. Alors,
il croit lui en plus. Hein.
Ah oui, attends.
Non, Luc serait le bienvenu, il n'y a pas de souci, Luc Besson, on l'attend. Bah,
évidemment,
avec plaisir.
Évidemment.
Avec plaisir.
Justement, David, Écroué de rire, toujours à l'affiche, toujours sur les
toujours planches. À l'affiche, ouais.
C'est tout, ça se joue quand?
Alors, tous les jeudis, vendredis, samedi, alors je fais quelque chose, on va faire les deux parce on joue tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, un jour j'ai les trois. Stomy et moi, on est sur scène avec Cyril Guel.
Ouais.
Et le jeudi, vendredi, samedi, je fais les deux. Une fois que j'ai fait ma dernière réplique d'un jour j'ai les trois, je descends et je vais dans la 160, dans l'autre salle, la 160 en bas, je joue et j'enchaîne avec Écroué de rire.
Incroyable.
Ouais. Et c'est autant de motivation que pour un casse.
Ouais, plus encore, parce qu'on sent qu'on fait quelque chose de bien, que ce soit avec un jour j'ai les trois ou Écroué de rire. Il y a vraiment, c'est une cause et on va en parler tout à l'heure. C'est
bien sûr
vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, vraiment.
Alain Guézard-Bocaz.
Je suis là. Alors Stomy, à chaque fois qu'on parle de toi, on dit Stomy, il a changé ou il a beaucoup changé. Qu'est-ce qu'il a changé en toi après ces années?
Je pense un peu plus de maturité, de sagesse. On dit dans la spiritualité africaine, quand tu as 7 fois 7 ans, 49, tu atteins ton degré suprême de sagesse. Moi, j'ai pas encore 49, j'en ai 47. Donc, je me rapproche de la sagesse. Et je pense aussi que le fait de plus manger de sang, de plus manger de créatures de Dieu qui ont été tuées dans des abattoirs, de leur naissance à leur mort, qui ont eu des vies de misère. Le fait que je ne consomme plus ce mode de vie-là et cette industrialisation de la viande, ce business de la viande industrielle, le fait que je mange plus de viande comme ça, ben je pense que ça m'a beaucoup assagi, ça m'a fait du bien. Je pense que la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, c'est mes enfants et d'être devenu vegan et cette pièce de théâtre un jour j'irai des trois.
Et tu, là on peut parler justement.
C'est beaucoup de choses,
hein. Moi je lance un grand message à tous les musulmans qui égorgent eux-mêmes leur viande, qui ne mangent pas la viande industrielle et tout ça, qui font attention justement à revenir à l'ancienne, quoi. Parce que toute cette viande qui est tuée dans les abattoirs, qui la plupart est jetée et tout, et ben franchement voilà. Donc voilà, on peut lancer un petit message.
Et même aussi, je voudrais dire aussi à mes frères musulmans, il y a même de la viande halal qui n'est pas de la viande halal. Normalement,
faites attention.
La bête, elle doit être au calme, elle doit se le donner à toi.
Voilà.
Et elle doit être au calme. Et après, là, je cautionne pas parce que je suis végan, je mange pas ça. Mais j'ai vu à l'époque quand les mecs ils le faisaient dans mon quartier, les papas, quand la bête était au calme, bismillah. Voilà. Mais dans les abattoirs. C'est pas
moi j'allais avec mon beau-père,
c'est pas comme ça qu'on traite une créature qui a été mise sur terre par Dieu.
Voilà.
Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras t'associer à Madame Brigitte Bardot, par exemple, pour défendre
Bien sûr, totalement.
Oui.
Totalement, oui. Brigitte, en plus, je pense qu'elle n'est plus avec son mec du FN. Donc, totalement.
Elle n'a plus le mec, mais elle a toujours les idées, visiblement.
Est-ce que tu as réussi à convaincre David de devenir vegan?
Ou il mange un bon steak lui avant de te voir.
Non, je suis végétarien. Moi, c'est voilà, je suis végétarien. C'est pour moi, c'est une question de santé et tout ça. Mais moi, je voilà, toute ma belle famille est algérienne, c'est des Algériens. J'allais avec mon beau-père égorger le mouton et j'ai vu tout ce que vient de dire Stomy. Voilà, mettre en apaisement la bête, la bête si se donne. J'ai vu tout ça et ce que dit Stomy est vraiment vrai. Et c'est pour ça que je faisais un grand big up à tous les musulmans qui font ça et qui respectent la viande et ouais, voilà, qui mangent pas la viande, cette viande qui vient de l'industrie et tout là. Voilà.
T'as entendu Christophe,
hein. Ah ouais, non mais moi ça m'empêchera pas de manger un bon steak ce soir, hein. Pardon les gars, hein, je suis désolé, hein.
Mais non, bon, ça viendra, on respecte tout le monde.
Un jour, finissant moins l'interview.
Un jour tu viendras un jour.
On respecte tout le monde.
T'as quel âge Christophe?
Je suis un peu plus jeune que toi, j'en ai 42.
Ah bah t'as le temps, dans 5 ans on en reparlera.
Avec plaisir. Anna.
Stomy, tu as toujours été un artiste engagé, un rebelle. De toutes les causes que tu as défendues, quelle a été la cause de ta vie?
La cause de ma vie, c'est d'élever mon enfant, d'avoir élevé mon enfant Bilal, alors qu'il avait même pas, deux jours. Et voilà, je devais m'occuper de lui, je devais l'élever moi seul avec ma mère et l'aide de ma petite sœur, et sortir de la clinique avec le couffin et mon bébé dans les bras alors que j'étais un jeune lascar de 20 ans. Ça a été le combat de ma vie, le premier combat de ma vie, je pense.
On arrive à toucher ta sensibilité. C'est-à-dire qu'il se cache derrière le gangster, le rappeur.
Gangster d'amour, c'est lui le gangster. David, moi, j'ai un gangster.
Moi, je suis un ex-gangster.
Un ex-gangster, excuse-moi.
Vous essayez de transmettre un message à votre public. Alors, pardon. La coïncidence entre un conseil de ton père, Stomy, suivi d'une proposition inattendue de David, a été l'élément déclencheur pour créer Un jour j'irai à Détroit.
Bah oui, je pense la pièce Un jour j'irai à Détroit. Bah j'étais en train de, on était avec David en train de travailler sur son spectacle Écroué de rire. Il jouait son spectacle déjà devant un bon moment. Il y avait déjà David avait déjà tout son spectacle grâce à Papis. Et donc il nous met en contact. Donc David, on devait écrire un épisode d'une série ensemble. D'une série que David, il avait l'idée de faire une série sur sa vie. Donc on devait se voir pour écrire juste 2-3 scènes ou un épisode ensemble. Et finalement, ça a tellement matché tous les deux, on s'est tellement bien entendu avec David qu'on en a écrit au moins 10 scènes ensemble. Donc on s'est dit vraiment que moi et David, ça matchait. David, il m'a dit, ouais, viens voir mon spectacle. Et je suis venu voir son spectacle, Écroué de rire, et j'ai pris plein de notes sur un cahier. À la fin du spectacle, je lui dis, ouais, ça c'est super, ça c'est super, ça c'est super, là on devrait renforcer ça, là peut-être enlever un peu moins de là. Je lui ai donné plein de conseils sur sa pièce, parce que j'avais adoré sa pièce, j'avais adoré sa performance, son charisme, sa niaque et surtout son message humaniste. Malgré qu'il ait fait 10 ans de prison, il avait pas cette rancune envers l'État. Il propose quelque chose d'autre. Ok, David, c'est le genre de mec, l'ex-gangster, il a fait des conneries, mais il les assume. Plutôt que d'autres en train de dire, oui, c'est les juges, c'est ceci, c'est cela, c'est les flics. Il proposait quelque chose d'autre, quelque chose de vraiment intéressant. Et donc, quand je lui ai donné toutes mes remarques, toutes mes critiques constructives sur sa pièce, il m'a dit, pourquoi tu ferais pas ma mise en scène? Et donc, c'est avec grand plaisir que j'ai fait sa mise en scène. Donc après, son spectacle a commencé à avoir de plus en plus de succès. On a commencé à jouer ce Écroué de rire, son spectacle, partout. On a joué dans les écoles, dans les PJJ, dans les protections de la jeunesse. On a joué en prison, partout. On a été joué partout en prison. Et chaque fois qu'on allait en prison, hein, David.
Ouais.
Chaque fois qu'on allait en prison.
Dans les prisons, voilà, on avait tout le temps beaucoup de remarques auprès des jeunes. On amenait la justice restaurative, et donc et on faisait confronter les jeunes avec les victimes et tout ça. Et les jeunes, ils s'exprimaient sur plein de choses. Mais l'une des choses qui revenait le plus important, c'était toute la colère, toute cette niaque. On dit les jeunes dans les quartiers, quand il y a des émeutes, ils brûlent tout. Ils brûlent tout, ils saccagent tout et tout. Et nous, ce qui nous faisait comprendre, c'est que non, on dit qu'on brûle tout, mais on brûle pas tout. En fait, on déconstruit. Et là, j'ai été interloqué par ce jeune qui m'a dit ça. Je dis, comment ça tu déconstruis? Il dit, oui, tout ce que nos pères, nos grands-pères ont fait pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction de la France, on n'est pas mis à l'honneur. À l'école, on nous dit pas tout ce que les tirailleurs sénégalais ont fait. Mais c'est là que on arrive aux tirailleurs. C'est très important ce que je veux dire. Je te me permets de te couper, Anna. Là, j'ai eu un déclic. J'ai compris à travers ce que ce jeune m'a expliqué quand il a dit on brûle pas, on casse pas tout, on déconstruit. On déconstruit ce que nos pères et nos grands-pères ont fait. À l'école, on nous dit pas assez l'histoire des tirailleurs sénégalais, et le massacre de Tiaroy. Et là, j'ai fait des recherches et moi qui suis français de souche, qui a été à l'école, j'ai vu qu'à l'école, quand on parle de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on ne parle pas des tireurs sénégalais.
Justement, cette histoire est méconnue d'un grand nombre de personnes, voilà. Que ce soit les Français ou les Africains même ne la connaissent pas. Voilà. C'est de la faute à qui, d'après vous, à ces zones d'ombre dans l'histoire?
Eh bien, pour moi, je sais pas à qui est la faute. Nous, on est là pour justement rectifier le tir. On a entendu ce que les jeunes ont dit. On s'est informé sur internet. On a été voir sur internet. On a vu que c'est vrai que les tireurs sénégalais, c'est une histoire méconnue pour la culture générale. Que ça touche tout le monde, le monde entier. C'est le monde. Et c'est là qu'on a eu l'idée de monter cette pièce et en plus ça enlève toute cette colère à ces jeunes qui disent qu'il n'a rien été fait pour les tirailleurs, pour l'histoire de l'Afrique, l'histoire de tout ce que l'Afrique a fait pour la France et tout ça. Et donc on a créé cette pièce pour la culture générale, mais vraiment mondiale, que ce soit même les Français de souche doivent savoir ce que les Africains ont apporté à la France.
Tirailleurs sénégalais, mais en réalité les tirailleurs
algériens, marocain, tunisien, ivoirien, la Guinée, les gabonais, Congo, tout. Et ça c'est Soudan, très très important.
C'est un très bel hommage.
C'est très important pour la culture générale. Pour la culture générale, c'est très 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 important pour toutes les communautés, tout le monde. Et en plus, je vous assure que ça enlève toute cette colère à tous ces jeunes qui sont dans les quartiers, qui eux maintenant depuis en plus l'arrivée d'Internet, Google, et qui voient justement ce qui est toute cette histoire sur les tireurs, sur l'Afrique, ce que l'Afrique a apporté à la France. Eh bien, alors on n'arrête pas de leur dire ouais, faut qu'ils s'assimilent, ceci, cela. Je trouve que ça, faut arrêter de dire ça. Montrer à l'école, dès l'école primaire, dès le collège, à tous les enfants africains, français, de tout le monde, ce que les tirailleurs, ce que l'Afrique a apporté à la France, je vous assure que ça va enlever beaucoup de colère et ça va rassembler.
Et Anna, pour répondre à ta question, c'est la faute de qui? Je pense que ça a été voulu depuis le début. Dans toutes les images d'actualité, les Africains ont été bannis des images d'actualité quand ils venaient et ils libéraient des grandes villes. À mon avis, depuis De Gaulle ne voulait pas que les Arabes et les Africains paraissent dans les images d'actualité. Il voulait montrer que c'était des blancs, des résistants blancs qui avaient libéré les grandes villes. Donc ça s'appelle le blanchiment des troupes. Exactement. Ou le blanchissement des troupes. Et c'est dans les archives. C'est pas moi qui le dis, c'est dans les archives. Donc ça a été voulu de diminuer, d'amoindrir le fait que des Africains, quand je dis Africains, je mets les Maghrébins aussi dedans.
Je voudrais dire quelque chose. Je vais peut-être lancer un pavé dans la mer, mais c'est très important pour moi. Je veux dire un truc qui me touche énormément. Je vais peut-être pas avoir les mots, mais prenez un enfant de n'importe quel village français, de ville française, de banlieue, un français, qui va à l'école depuis sa tendre enfance, depuis l'école primaire, collège, et qui entend que la France a été libérée par les Blancs, que l'histoire de Charlemagne, l'histoire de Louis XIV, de Napoléon, ça va l'aider encore plus à respecter la France. Vous voyez? Oui. Mais prenez un petit Africain, de n'importe quel, musulman, Africain, l'Afrique du Nord ou Afrique du Sud, pour mieux m'exprimer, qui va à l'école primaire, et qui lui, n'entend pas un mot sur ce que l'Afrique a ramené à la France, autant dans les guerres que dans la reconstruction. Et après, on lui dit, respecte la France, travaille pour la France. Et qui après, maintenant, avec la montée d'Internet, et qui va sur Internet, qui voit tout ce que l'Afrique a apporté, et qui va...
Sans compter l'image qu'on lui renvoie de lui-même,
comme monsieur vient de le dire. Ouais. Eh bien, c'est pour ça que ce travail, un jour Gérard Détroit, c'est qu'un début, mais je veux dire, ça sert à réparer l'histoire, à ramener tout ça, à enlever cette colère qu'ils ont tous, qui est pour moi illégitime.
Il y a eu indigène, David.
Heureusement qu'il a fait ce film.
Voilà.
Grâce à ce film indigène de Rachid Bouchareb, les anciens combattants étaient payés 4 fois moins cher qu'un ancien combattant blanc.
Oui, ça a créé le débat, ça a même de la classe politique, on se souvient.
Il y a même un film sur
Et maintenant, ils sont payés pareil. Et avant, ils touchaient leur somme tous les 4 mois ou tous les 3 mois. Maintenant, ils les touchent tous les 3 mois.
Et c'est pour ça.
Donc, ça prouve que l'art, le cinéma, la littérature, la culture, la poésie, le rap, le slam, la chanson, ça fait bouger les choses. Et c'est pour ça qu'on est là sur France.
Et je voudrais dire. Est-ce que vous pensez que maintenant que vous avez mis ce sujet sous les lumières, est-ce que vous pensez que le gouvernement ou l'armée française va dédommager les familles, ou demander des excuses, ou
c'est sûr, on travaille avec Aïssata Seck, qui elle avait lancé une pétition en 2012 pour que les tirailleurs soient ceux qui avaient demandé la naturalisation française, qui attendaient ça depuis 50 ans. Grâce à elle, il y en a qui l'ont obtenu, mais il y a encore 1000 tirailleurs qui, il n'y en a que 1000 tirailleurs en France qui sont encore vivants et qui vivent dans des situations vraiment, qui vivent dans des 12 mètres carrés, qui sont traités comme des moins que rien alors qu'ils se sont battus pour la France.
Et je voudrais redire un truc.
Je l'ai rencontré avant qu'elle collabore avec vous dans une autre radio et je lui ai parlé de votre projet.
En tout cas, je veux dire un autre truc très important, très important. Je voudrais ajouter encore un très important. Ce que tu viens de dire, Anna, est très important. Est-ce qu'on pense que ça va faire bouger les choses? En fait, ça dépend pas que de nous. C'est tous ensemble. Ce qui a été fait il y a 80 balais, il y a 80 ans, et comment ça a été enterré et mis à l'oubli. Aujourd'hui, faut pas que ça recommence. Un jour, Jardin des Trois, ou indigène, ou voilà, tout ce qui est fait, il faut que le peuple, les médias, tout le monde en parle. On est déjà, c'est pour ça que je vous félicite de nous recevoir. Vous,
c'est un plaisir, Charles.
Stomy sort de chez Canal+. J'ai fait un truc sur la 2 il y a pas longtemps. Je sais que il faut les citer tous. Je sais qu'il y a la concurrence des radios, mais là pour cette cause, il peut pas y avoir de concurrence. Il faut que tout le monde parle de ça. C'est pas parce que c'est Stomy et David Desclos. Nous voilà, on est les acteurs. Mais il faut parler de cette cause des tirailleurs sénégalais, du massacre de Tiaroy. Il faut que la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, toutes les chaînes, toutes les radios en parlent, parce que ce qui a été fait il y a 80 d'être mis enterré sous terre, je trouve que c'est écœurant et faut pas qu'en 2020 ça recommence. Cette pièce, un jour j'allais trois, tout le monde doit en parler, et je dis pas ça parce que c'est nous, hein, je veux pas vendre nos notes, je dis que c'est très important pour la cause africaine et la cause française. C'est ça qui va nous rassembler, qui va faire en sorte qu'il y ait moins de coléreux dans les cités, il y ait moins de... Voilà, je me calme.
Tout va bien.
Et pour parler du massacre de Tiaroy, il y a peut-être des auditeurs qui ne le savent pas, c'est que l'armée française a massacré des combattants, des tirailleurs qui avaient combattu pour la France et qui étaient restés 4 ans dans les fronts stalag, dans les camps allemands. Et suite à leur libération, ces tirailleurs ont demandé leur solde de captivité, leur pécule, leur argent. Parce que, voilà, on les a amenés au camp de Morlaix, et du camp de Morlaix, ils devaient prendre le bateau et rentrer au pays. Mais ces soldats-là, ils s'étaient battus pour la France, ils n'allaient pas rentrer les poches vides au village. Les gens au village
ils méritaient leur solde.
Ils méritaient leur solde. Donc ils demandent leur solde, leur gradé, les ont tournés en bourrique. Vous aurez votre solde. Allez là-bas, vous aurez votre solde. Non. Ils ont vu qu'ils n'allaient pas avoir leur solde. 315 tirailleurs ont refusé de monter sur le bateau. D'où mon personnage, Djilia Makombu, qui refuse de monter sur le bateau parce qu'il veut qu'on le paye, il veut sa solde de captivité. Donc, mon personnage est jeté en prison, ainsi que 312 autres. Et lui, et quand il arrive en prison, il fait la connaissance de Marcel Brovan, que David Desclos incarne. Et qui, lui, un soldat blanc qui a été jeté en prison parce qu'il a refusé de combattre avec le pantalon d'un mort. C'est aussi inspiré d'une histoire vraie. Et mes compagnons, les compagnons de Djilia Makombu, qui, eux, ont accepté d'aller à Dakar, au camp de Tiaroy, arrivés là-bas, ils voient toujours qu'on leur donne pas leur solde de captivité. Là, ils commencent à s'énerver un peu. Ils prennent à partie un général. Ils disent, on veut notre solde. Le général les endort, ne vous inquiétez pas, demain on vient avec votre argent. Mais qu'est-ce que l'armée française fait? L'armée française commande des mitrailleuses et vient et le soir même et les arrose le camp et tue entre 300 et 400 soldats qui se sont battus pour la France. Et l'armée française à l'époque en reconnaît à peine 33. Alors qu'il y en a eu au moins entre 300 et 400.
Mais est-ce que vous avez envoyé des invitations, par exemple, au président de la République et à des grands noms dans l'armée pour qu'ils puissent voir le spectacle?
On va leur envoyer, on a déjà envoyé des.
On a commencé par les ministres et tout ça, voilà.
C'est les ministères de la Défense qui peuvent faire bouger les choses.
Ça joue en ce moment, les amis. Un jour, j'irai à Détroit.
Ça se joue au théâtre du gymnase.
Ouais.
Tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedi, 21h au théâtre du gymnase dans la grande salle. Un jour, j'irai à Détroit. Stomy Bugsy, David Desclos, Cyril Guel comme acteur et Dominique Coube à la mise en scène.
Justement, vous parlez pas beaucoup du troisième acteur. Je veux dire, il fait pas de promo avec vous. Est-ce que déjà c'est un Américain parce qu'il a un excellent.
non, c'est pas un Américain. Bah déjà des fois c'est dur d'aller à deux sur les plateaux parce que souvent on me demande que Stomy Bugsy. Moi des fois j'impose David. Alors pour amener encore Cyril, ça va être encore plus dur. Mais il en fera avec nous, j'espère bien.
Pour avoir assisté à cette pièce de théâtre.
Il faut revenir à ce que tu viens de dire. C'est très important parce que c'est vrai que cette pièce, elle montre aussi qu'elle rassemble. Il y a, et moi, je trouve que c'est une grande erreur de, pas pour mon ego à moi, hein, par exemple, même s'il y allait avec Cyril, par exemple, même s'il y allait avec Cyril, de montrer ce que font les blancs et les noirs ensemble. On est ensemble, on est frères, voilà, l'idée, on l'a eu ensemble, on l'a écrit ensemble, on est sur scène, on mouille la chemise ensemble. Et je trouve que c'est une grosse erreur des médias d'amener Stomy tout seul. Peut-être, ça pourrait être même très mal interprété de dire que c'est une pièce communautaire et tout. Je trouve que montrer cette fraternité, cette chose qu'on fait ensemble, les blancs, les noirs ensemble, on est frères, on est ensemble.
Et c'est surtout le reflet de la pièce de théâtre.
Mais c'est le reflet de la pièce
de théâtre. Quand mon personnage Gilly arrive en prison, au début il arrive en prison et il se lie d'amitié avec ses voisins des cellules, ce soldat français et ce soldat américain.
Ils sont ensemble dans la même merde.
Ils ne se voient pas, ils sont séparés par des murs, mais ils arrivent à créer un lien fort. Et c'est ça la France d'aujourd'hui.
C'est ça, la France des tranchées, la France de la guerre, c'était noir, arabe, blanc, tous ensemble, contre le fascisme. Ils ont tous, ils se sont battus, ils se sont fait tuer ensemble, ils ont dérouillé ensemble, dans cette pièce, ils sont ensemble, en prison. C'est là qu'on voit que c'est dommage de séparer, même sur les plateaux télé, de séparer ça, d'enlever ça. Et je trouve que maintenant, voilà, c'est dur à le dire parce qu'ils vont croire que c'est le côté égo. Ouais, David Desclos n'est pas sur les plateaux ou Cyril Guel. Alors nous, on est voilà. Mais et Stomy, on est très peiné.
Il nous l'a dit.
Malheureusement, c'est le jeu des médias.
C'est le jeu. Ouais.
Des fois, dans les médias, vous avez quand je vous ai demandé. Quand tu m'as demandé de venir, je t'ai dit, est-ce que je peux venir avec David Desclos? Tu m'as dit avec grand plaisir, oui, David Desclos chez lui ici.
Chez lui ici,
voilà.
David.
Et j'apprécie. Et d'autres médias ne le font pas. Moi, je le demande à chaque fois si je peux venir avec David, mais ils veulent la tête de Stomy Bugsy, ouais. Moi, je veux pas refuser parce que ça serait nous tirer une balle dans le pied.
Oui, bien sûr.
De pas aller parler de la pièce.
Exactement.
Mais ça montre le message, ce que c'est vraiment la France. Quand on était petit, à l'école, il n'y avait pas de musulmans, de juifs, de chrétiens. On était tous des copains.
Ben oui.
On était tous.
Sur les bancs d'école, on était tous assis côte à côte.
Séparation.
C'est vrai. C'est vrai.
Exactement. Faut,
solidaire dans la street.
Voilà. Solidaire partout.
Solidaire dans la street, dit Rudy Kazi. Stomy Bugsy et David Desclos. Donc, la pièce, il faut aller la voir, les amis. Il faut aller encourager parce que c'est vraiment un travail de mémoire aussi. Qu'illustre cette pièce, c'est tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi à 21h au théâtre du gymnase. Un jour j'irai à Détroit. Stomy Bugsy et David Desclos. Il nous reste peu de temps, Anna, vas-y, je t'en prie.
La question.
Oui.
La question Gamal Aminar, peut-être.
Oui, question Ronarc. Tout d'abord, merci pour cette pièce, parce que cette histoire, je la connais depuis très longtemps, elle a été niée, hein, clairement.
Mm-hmm.
Il faut faire des liens et pas de division. J'ai discuté hier avec Claudicia. Oui. Sur la division entre les Noirs et les Arabes, c'est un travail qui est vicieux qui est en train de se faire par l'extrême droite. Ils font un travail vraiment très vicieux. On l'apprend aujourd'hui.
Bien sûr, même sur le net, ils créent des
faux comptes et tout pour les insulter.
C'est les trolls.
On apprend par exemple que maintenant l'extrême droite elle aime le Sénégal. En 98 elle aimait pas, mais aujourd'hui elle aime contre l'Algérie. C'est un exemple très concret. Oui. On apprend qu'ils aiment bien le
français.
Voilà, contre le français. Ouais, ça c'est une manipulation. Alors une chose qui est intéressante dans ce que tu viens de dire à l'instant, et j'aime beaucoup ce que vous faites comme travail. On a une amie commune d'ailleurs, Stomy Bugsy, c'est Sarah Tekaya que je salue d'ailleurs.
Mm-hmm.
De dire quoi? De dire que le 8 mai 45, jour de paix en Europe, jour de deuil en Algérie, c'est quoi? C'est 45 000 morts pour remercier les familles algériennes d'avoir soutenu les combattants algériens qui libéraient la France à Montecassino et dans tout le sud de la France. Quand j'ai les combattants algériens, c'est générique, c'est-à-dire les combattants africains, parce que je fais pas différence entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne.
Mmh.
Ensuite, deuxième chose, la fraternité, on l'a connue dans la douleur, dans la violence, on a été aussi des esclaves, faut jamais le perdre de vue. La colonisation, c'est l'esclavage, c'est pas autre chose. Et ce que j'ai envie de dire, merci encore, parce que j'irai voir ces pièces avec beaucoup d'attention. J'aime beaucoup cette démarche de faire revivre la mémoire, parce que le problème aujourd'hui, effectivement, la question a été soulevée. C'est la question de la jeunesse qui ne connaît pas son histoire et qui est en colère. C'est une colère qui est tue, qui n'est pas comprise.
C'est pas qu'elle connaît pas. C'est qu'elle la connaît, mais elle est pas.
Elle la connaît mal parce que c'est pas verbalisé.
Ouais, mais moi je pense que pour aller dans les prisons de ça, on voit. Elle la connaît, mais elle est énervée qu'elle soit pas mise en lumière.
C'est pour ça qu'il faut en parler.
Pas énervé. Moi, c'est pas énervé que je vous coupe la parole, mais c'est l'heure de la pub, les amis. Voilà.
C'est dommage. On reprend.
Dans un instant, bouge pas, mon gars.
Désolé, mais c'était important de dire ce que.
Non, mais voilà. C'est important aussi de mettre des sous dans la caisse, les gars. Voilà, à tout de suite.
France Maghreb 2.
La suite des rendez-vous d'Anna, suite et fin avec nos invités, cher Anna, c'est Stomy Bugsy et David Desclos. Alors, une question qui m'a été posée par une auditrice, elle vous lance en quelque sorte un pari.
On diffuse maintenant de plus en plus des pièces de théâtre à la télé, sur des chaînes d'infos, sur des chaînes, pardon, pas d'infos, des chaînes France 2, France 3, des chaînes publiques en général. Pourquoi essayer de faire pression, justement, pour que le message passe davantage, en essayant d'obtenir la diffusion de la pièce en direct à la télé? C'est possible, ça ?
On en rêve. On peut pas dire d'autres mots, on en rêve. Déjà qu'on nous invite pour en parler, ça sera déjà un grand. On vient de discuter justement avec un mec qui vient de nous dire. Il vient de nous dire. La question, c'est pourquoi justement c'est enterré tout ça. Mais on va laisser finir, monsieur, parce que il est en train de dire quelque chose.
Oui, très dernière chose très importante par rapport à ces questions-là de la mémoire, parce qu'on parle de questions mémorielles. Ce qui a été évoqué tout à l'heure sur le fait qu'on a blanchisé, on a rendu blanc les combattants français qui sont, quand je dis français, c'est français de souche, hein, qui sont rentrés pour libérer Paris. Il faut savoir que c'est pas n'importe qui a fait ça, et ça c'est grave. C'est le général Leclerc. À 30 km des frontières de Paris, il a donné une directive qui a été reportée écrite, hein, y a pas de problème, j'invente rien. Il a dit, on ne peut pas laisser aux Parisiens le sentiment qu'ils ont été libérés par leur colonie. Donc ça fait écho, ça, quand on part avant aux zoos humains où on était des sauvages, qu'on était exposés comme des bêtes. Voilà. Il peut pas dire que les bêtes ont libéré des nazis, des autres bêtes en l'occurrence, les Européens et les Français. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont blanchisé les troupes et ils ont mis les autres troupes comme ça en arrière. Ouais. Alors c'était elles qui étaient le gros du contingent, parce qu'il y avait très peu de combattants français à ce moment-là, vu que c'était soit pour la plupart à Londres ou alors en prison ou autre. Donc il y avait très peu de combattants français, il restait que les colonies. Et c'est les colonies, il fallait coloniser.
Oui, la capitale de la France libre, c'était d'abord Kinshasa, Brazzaville, et après c'est devenu Alger,
absolument.
Le salut de la France vient de l'Afrique. Au début, quand le général de Gaulle fait son l'appel du 10 juin, il a 2500 combattants. Absolument. C'est tout. Il est obligé d'aller en Afrique, et grâce à Félix Eboué, au Tchad, le gouverneur du Tchad, le Tchad et le Cameroun apportent 16 000 combattants d'office. Et après, grâce à l'Afrique, De Gaulle a une armée au presque de 300 000 combattants.
D'ailleurs, Félix Eboué, c'est une petite place de rien du tout dans le 12e arrondissement, on ne sait même pas qui il est. Alors, c'est quand même celui qui était le fondateur de la licence française, bien avec sûr. De Gaulle.
Mais ce que tu viens, si on peut juste conclure sur un truc.
Oui, il nous reste trois minutes, les amis.
Tout ce que tu viens de dire est très important, et à l'heure d'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans d'autres plateaux et qui pousse limite à la guerre civile, si on fait pas ce travail là pour rassembler, on va dans le mur. Et je vous assure que on cherche pas à vouloir mettre que les Africains en avant. C'est vraiment, on sait tout ce que la France a fait, tout ce que l'Afrique a fait, c'est de montrer les deux, c'est rassembler tous ensemble. Sinon on va pas y arriver.
C'est le rassemblement des peuples alors.
Voilà, rassemblement des peuples.
On rappelle, la pièce se joue donc tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi et samedi. Ça s'appelle donc Un jour j'irai à Détroit, avec nos amis Stommy Bugsy ici présent et David Desclos. Allez-y les amis, vous pouvez y aller.
Et Cyril Guel.
On vous attend en masse, les frères et sœurs.
Et on compte sur vous, évidemment. On espère, hein, qu'en tout cas le pari lancé par notre auditrice puisse aboutir, à savoir que cette pièce soit retransmise en direct.
C'est un devoir pour la culture générale.
Voilà, exactement. On est d'accord, c'est un devoir. Et on l'espère en tout cas. Juste un dernier mot, Stommy, côté musique, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est le calme le plus plat là.
Non,
les crampons, quoi, qu'est-ce qui se passe?
Là,
il nous reste vraiment très peu de temps.
Ils sont là, je pousse quand même.
Bah oui, mais on a un autre invité derrière. Vas-y, rapide.
Vas-y, rapide. Je suis très content. D'ailleurs, je passe une dédicace à Benji, mon cousin, parce que moi, déjà à l'époque, je suivais souvent.
Je t'en passe une à mon pote Tony Faron qui nous écoute, et tous les gens du Calvados, de Caen, de la Normandie qui nous écoutent. Mes parents.
Dédicace à tous. Donc, ouais, j'étais souvent parfois au studio quand ils ont ouvert leur premier studio à Ivry-sur-Seine, c'est au temps de Première Classe, etc. Donc, j'étais souvent là et tout. Tu peux pas te rappeler de moi, mais parce que j'étais jeune, etc.
T'as quel âge,
mais là, je vais sur mes 37 là.
Ah, ok, d'accord. T'étais un jeune vieux, quoi.
Ouais, je suis un jeune vieux. Ouais, gars, j'étais là pour les vacances, gamin et tout. J'allais à la maison et tout. Donc, bon, on te suit depuis. Et je suis content de ton engagement. Pourquoi? Parce que, et c'est une conversation que des fois j'ai aussi avec Benji. Je dis, tu vois, je trouve que les rappeurs, en fait, de votre génération, donc de notre génération, en gros, y a eu les succès du passé. Et les situations dans les quartiers n'ont pas changé. Ça veut dire, en fait, vous avez parlé de situations qui n'ont pas tellement évolué que ça. Et je trouve dommageable que pour beaucoup de rappeurs de cette génération, certains sont peut-être retournés à d'autres activités, etc., mais peu ont transformé, en fait, leur implication de l'époque dans le rap, même s'il y avait la mouvance Ego Trip ou la mouvance on racontait vraiment ce qui se passait dans la rue, etc. Je trouve qu'en fait on n'est pas parvenu, en fait, à politiser, en fait, ce discours. Quand je dis politiser, c'est pas le truc traditionnel, élection municipale ou je sais pas quoi, mais c'est vrai, c'est vraiment, tu vois, en fait, transformer transformer l'essai, ce qu'on racontait dans les textes, comment est-ce qu'on peut, on peut maintenant changer ces choses-là. J'ai eu une conversation avec Mokobé sur le sujet aussi.
Oui, de grandir, voilà. D'évoluer avec son art. Oui.
Exactement, et je suis content que toi, tu l'aies fait à ta manière, soit au travers de la pièce, etc. Mais pourquoi est-ce que c'est difficile pour les rappeurs de le faire, alors que dans les quartiers, on a...
Alors, essaye de faire une réponse plus rapide que la question.
Je sais pas, il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font. Passy avec le Bisson Abisso, c'était une espèce de militantisme. Kerry James aussi, il évolue de sa façon. Il y a aussi Abdelmalik aussi, pour en citer. Mm. Mais je pense qu'il y en a, il y en a d'autres activistes, mais qui font des choses peut-être moins populaires, moins à grande échelle. Mais voilà, je pense que quand t'as été un rappeur d'une certaine époque, si t'es un rappeur et t'as écrit des textes de rap, c'est que t'es un artiste forcément. Ouais. Tu peux faire autre chose que du rap. Donc bon, voilà, j'encourage les rappeurs de ma génération à continuer encore.
Merci.
Pour toi, qui est le rappeur numéro 1 en France maintenant?
C'est moi.
Merci beaucoup Stomy, merci beaucoup David Desclos. On rappelle, la pièce se joue donc tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi.
Et le livre David Desclos, une histoire vraie, aux
éditions
Flammarion.
Absolument. Et Croix et de rire, le spectacle. Merci. Aussi, à ne pas louper.
Merci beaucoup, parce que je sais qu'on est speed et tout, et c'était un pro. Franchement, merci de nous
recevoir. Merci à vous.
Merci
à vous, les gars.
Merci à Anna pour l'invitation.
Merci à toute l'équipe, Anna et toute l'équipe. Merci à vous, vraiment.
À très bientôt, les gars. Merci.
C'est qu'on est ingérable, et donc merci beaucoup.
Il n'y a pas de souci, c'est toujours un plaisir. Anna, tu reviens demain avec un autre invité.
Avec moi, revenez avec moi encore demain.
Revenez avec Amine Radi demain. Humoriste, qui sera avec nous demain à partir de 17h. Merci Mana.
Merci à tous.
Merci Stomy, merci David. Ciao, allez, merci, on change de plateau, on de speed les amis, ciao, parce qu'on a notre invité, on va parler politique, on va aller du côté de Clichy-sous-Bois. Ouais, pas de problème. Clichy-sous-Bois les amis. Pour parler donc des élections municipales, parce que ça approche à grands pas, et c'est un rendez-vous aussi important à ne pas louper, bien sûr, les municipales 2020, avec notre invité ici présent, Ali Méziane, donc sur France Maghreb 2. Voilà, est-ce qu'on peut faire le changement de plateau rapidement, s'il vous plaît, parce que le temps de parole est très important aussi pour les élections municipales. Voilà, merci messieurs en tout cas d'être venus ici dans nos studios, et bon courage pour la suite et la pièce. Merci Mana, à demain. Bien sûr, avec Amine Radi qui sera avec nous demain. Salut mon David. Merci, à bientôt. Merci, voilà. Sauf. Salut Somi. À bientôt. Ciao, voilà. Salut les gars. Voilà. Super moment en tout cas. Allez voir la pièce. Hein. On rappelle, c'est tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi. C'est au théâtre du Gymnase, dans la grande salle, les amis, pour réserver. Donc, billets réduits. N'hésitez pas à vous y rendre, bien entendu, sur France Maghreb 2. J'appelle donc notre invité suivant ici présent, Ali Méziane. On va aller du côté de Clichy-sous-Bois. Forcément, vous connaissez Clichy-sous-Bois. On en a beaucoup parlé dans l'actualité, notamment en 2005 avec l'affaire Ziad et Bouna. Clichy-sous-Bois qui aussi s'est fait remarquer dans l'actualité pour des exemples beaucoup plus intéressants et beaucoup plus nobles. Notamment, je crois, et on va en parler avec lui, il a eu le résultat des meilleurs collèges de France, je crois, à un moment. On va en parler avec lui. C'est donc l'heure de l'entretien d'admission. Gamal Abina, Rudy Kazi ici présent avec nous. Notre invité s'installe, Ali Méziane, pour parler des élections municipales à Clichy-sous-Bois. Bonjour Ali.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Bah, soyez le bienvenu en tout cas. Soyez bienvenu. Alors on va aller du côté de Clichy-sous-Bois pour donc parler un petit peu de ce que vous entrevoyez pour votre ligne, ce que vous prévoyez pour votre ligne. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditrices, auditeurs qui ne vous connaissent pas? Qui est Ali Méziane?
Bonsoir. Tout d'abord, merci de m'avoir invité donc à Radio France Maghreb.
France Maghreb 2.
France Maghreb 2.
Voilà.
Pour préciser. Donc, je m'appelle Abdelali Méziane, donc 49 ans. Donc, j'habite à Clichy-sous-Bois depuis 42 ans. J'ai grandi dans le Haut Clichy à Albert Camus, et j'ai été dans l'associatif très tôt, à l'âge de 18 ans. Association qui s'appelle Moving City, qui existe encore aujourd'hui. Et je suis rentré en politique à l'âge de 31 ans, donc en mars 2001.
Ouais.
Parce que jusqu'à l'âge de 29 ans, pour moi, comme beaucoup de jeunes, que ce soit avoir la carte d'électeur ou voter, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et c'est à 29 ans que je me suis rendu compte, en étant actif au niveau associatif, qu'il fallait vraiment s'impliquer au niveau politique.
Oui, alors effectivement, est-ce que c'est votre première candidature?
Oui, en tant que tête de liste, oui, c'est ma première
candidature. Qu'est-ce qui a fait que, justement, vous ayez fait ce choix, de vous lancer dans cette aventure des municipales 2020? Est-ce à dire que votre ville, vous la sentiez pas aller dans le bon sens, et qu'il fallait quelqu'un pour rattraper un petit peu les choses et faire des chantiers, ouvrir des chantiers importants pour votre ville Clichy-sous-Bois, que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure?
Bien sûr, déjà en 2014, j'ai failli me présenter. Jusqu'au mois de décembre, je devais être à la tête d'une liste justement d'Europe Écologie Les Verts.
Ouais.
Et ça s'est pas fait au dernier moment, puisqu'il y a eu un nouveau vote des militants qui avait pour une majorité donnée, donc une liste autonome à Kissoubois face au maire sortant. Mais ensuite, il y a eu ça s'est réglé au niveau national. Donc les Verts ont souhaité à l'époque que je fasse un accord avec l'équipe sortante. Et du coup, à 2 mois des élections, j'avais pas trop le choix, si ce n'est d'aller dans une union de la gauche, toute la gauche, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Tant mieux.
Entre-temps, le contrat n'a pas été respecté puisqu'on était censé travailler ensemble et avec une gouvernance où chaque élu, notamment moi à l'époque, j'étais deuxième adjoint, j'étais censé être quand même au courant et surtout actif dans tous les domaines, aussi bien développement économique que aménagement du territoire. Malheureusement, c'est pas du tout le cas puisque 2 ans après, déjà il y a eu un début de crise avec le maire sortant. Et on a passé pratiquement 2 ans à, effectivement, on était ensemble sans être ensemble. Et j'ai préféré assurer moi-même cette candidature pour me présenter et présenter vraiment concrètement ce que moi je pense, ce que j'estime le plus important pour le Kichois. Et pour moi, c'est l'éducation, clairement l'éducation, dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que...
D'ailleurs, Clichy s'est fait remarquer à plusieurs titres. Clichy, alors dites-moi si je dis une bêtise, je crois que c'était... Vous avez terminé meilleur collège de France
Lycée Alfred Nobel, effectivement.
Voilà, c'est à Clichy-sous-Bois, les amis, qu'on se le dise quand même, parce que c'est vrai qu'alors j'entends beaucoup cette phrase de la part de gens qui habitent notamment dans les quartiers dits populaires, dans le 93, dire moi, pour mes enfants, je veux qu'ils partent en privé. Bah, la preuve, l'exemple en tout cas a été donné, c'est que non, dans le public aussi, on peut avoir des résultats qui peuvent donc être les meilleurs de France, comme ce fut le cas à Clichy-sous-Bois. C'était quoi, il y a 2-3 ans maintenant?
Ça fait 3 ans hein, qu'il est clairement classé comme meilleur lycée au niveau surtout du suivi des élèves, avec des assistants pédagogiques et une équipe de direction qui est vraiment au top et qui suit ces jeunes de la seconde jusqu'au passage du bac.
Alors combien d'habitants à Clichy-sous-Bois?
30 000.
30 000, d'accord, une belle ville. Donc comment appelle-t-on les habitants de Clichy-sous-Bois?
Les Clichois.
Les Clichois, bon, oui. Très bien. Alors on va faire, on va clicher avec les Clichois pour le 15 mars prochain pour Abdelali Méziane qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Alors vous proposez, vous êtes d'être les garants de la transparence pour l'attribution notamment des logements plus des places en crèche, des demandes de dérogation à la carte scolaire, les emplois aidés, les emplois, enfin vraiment vous voulez impulser, j'ai envie de dire, une nouvelle force au travers de votre candidature.
Clairement, maintenant, ça fait maintenant 7 mois que je suis en campagne, depuis que j'ai annoncé ma candidature, le 7 juillet, et en allant à la rencontre des Clichois et des Clichois, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce qui remontait souvent, c'était effectivement, on veut bien faire confiance à une nouvelle équipe, mais ce qui nous importe avant tout, c'est la transparence. On a besoin de savoir concrètement ce qui se décide, effectivement, quand on attribue des logements ou des places en crèche ou des dérogations pour les écoles, et même au niveau du recrutement. Et donc, c'est pour ça que, clairement, ce que je propose, c'est nouveau, c'est-à-dire que, non seulement il y aura effectivement les élus qui siégeront dans les commissions avec les bien entendu les cadres de la ville, mais ce sera ouvert aussi aux citoyens qui seront tirés au sort. Ce sera pas moi qui choisirai donc les.
Ce qu'on appelle citoyens, la démocratie participative, c'est un mot qui vous tient particulièrement à cœur.
Ce soit le logement des demandeurs de logement qui puissent eux-mêmes assister, qui puissent voir concrètement comment ça se passe, et bien entendu la possibilité pour eux aussi d'avoir un recours. Parce que même si je mets ça en place, si je mets en place des critères et que les critères ne sont pas respectés, et s'ils n'ont aucun moyen de recours, ça sera reparti pour 6 ans. Les gens diront que ça n'a pas changé. Il y a toujours la même, c'est toujours les mêmes, toujours la même façon de faire. Et donc, moi, je veux révolutionner ça en disant voilà, à partir de maintenant, je m'engage à être le garant de tout ce qui se passe, qui passe par les commissions, aussi bien, je parlais des places en crèche, mais aussi des demandes de logement. Et le recrutement aussi, qui est une procédure claire et nette pour tout le monde, que les gens puissent être reçus, s'ils sont pas reçus, qu'ils puissent recevoir un courrier en leur disant votre candidature n'a pas été retenue, et aussi la possibilité d'ouvrir donc les emplois aidés, parce que je pense qu'aujourd'hui ce qui compte, ce qui prime, c'est le chômage qui est très élevé en France, dans l'ancienne Saint-Denis, mais encore plus à Clichy-sous-Bois, on a plus de 50% des jeunes qui sont sans emploi, et beaucoup qui sortent sans diplôme, et donc il faut vraiment qu'on change, je dirais, de logiciel.
Allez, Méziane, aussi chose très importante, question que je pose d'habitude au début, mais
bien sûr.
Vous êtes aujourd'hui un candidat sans étiquette, soutenu par quel parti politique?
C'est une liste citoyenne, effectivement, soutenue par Europe Écologie Les Verts.
D'accord.
Et le Parti radical de gauche.
D'accord. Bon, aujourd'hui, donc il y a un maire hein, qui est installé dans cette ville. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. J'ai reçu plusieurs candidats de plusieurs villes, et à chaque fois, les maires sortants nous contactent en disant nous aussi on veut la parole. Alors je précise que nous avons fait le choix nous cette année maintenant de recevoir un candidat par ville parce qu'on a beaucoup de villes dans, sur lesquelles on émet et c'est le candidat qui se manifeste qui vient à nous qui passe le premier donc on passe effectivement à Limésienne aujourd'hui parce que c'est le premier à s'être manifesté donc voilà après à chacune et chacun d'aller voir le programme des autres candidats qu'ils auront pour le choix qu'ils auront à faire le 15 mars prochain. On va parler du Grand Paris parce que ça c'est très important et je crois qu'il y a le métro ligne 16 qui passe par Clichy-sous-Bois.
On attend effectivement la ligne 16 du métro qui est prévue pour 2024.
Visiblement, pour la 2024, oui.
Il y a un peu de retard mais on espère vraiment que le calendrier sera respecté. Parce que pour nous, ce serait vraiment le désenclavement, le vrai désenclavement pour nous. C'est-à-dire pouvoir accéder à la Saint-Denis-Pléienne, notamment en moins de 20 minutes. C'est révolutionnaire. Aujourd'hui, on vient d'inaugurer le tramway, le T4.
Ouais, qui, exact. Ouais.
Mais tout le monde attend, c'est vraiment au niveau de l'emploi, au niveau de l'accès à la culture, à la formation. C'est vraiment l'arrivée du métro que j'espère en 2024.
Ça pourrait être un apport important pour Clichy-sous-Bois parce qu'on peut pas dire que vous soyez très bien loti en matière de transport, non? Si je me trompe.
Le souci, c'est qu'on est très proche de, on est à peine 10 km de Paris. Mais au niveau des transports aujourd'hui, malgré l'arrivée du tramway, puisqu'il y a, une polémique en ce moment sur la suppression dès le mois d'avril, on a inauguré le tramway en décembre, et qu'au mois d'avril, on supprimerait deux lignes de bus avec des modifications, le 601 et le 347. Et donc pour moi, j'espère, c'est qu'effectivement, on pourra maintenir ces lignes de bus, puisqu'elles sont complémentaires au tramway, et surtout le métro en 2024. J'espère que le calendrier sera vraiment respecté pour nos jeunes étudiants qui vont à la fac de Saint-Denis, par exemple, ou à Villetaneuse, à Créteil, ou ceux qui vont travailler, se former et tout simplement se cultiver sur Alors, Paris.
Avant de laisser la parole à mes chroniqueurs ici présents, Gaba Labina et Rudy Kazi, pour une question chacun, il y a aussi la jeunesse qui vous tient particulièrement à cœur. Vous proposez notamment de mettre en place un parcours de réussite éducatif et un accompagnement scolaire du primaire au collège, du lycée vers l'enseignement supérieur, faculté, grandes écoles, filières professionnelles, etc. jusqu'à la première embauche. Ça, c'est une coopération que vous voulez entre la famille et en fait finalement la municipalité.
Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des associations de parents d'élèves qui sont constituées, des associations aussi qui sont là aussi pour le soutien scolaire pour nos jeunes. Moi je veux qu'amplifier le soutien au niveau associatif, l'association sportive, culturelle, pour justement travailler avec eux, parce qu'ils contribuent à la cohésion sociale. Ce n'est pas les parents tout seuls, ni la mairie tout seul, mais c'est tout le monde. Et bien entendu, il faudra des moyens. On a beaucoup de jeunes étudiants qui ont réussi, qui peuvent assurer le soutien scolaire dès le CP, et pas uniquement le soir après les cours,
ouais.
Le mercredi, les vacances scolaires, il n'y a pas de raison qu'il ne se passe rien, que du loisir. Je veux du loisir éducatif, et en même temps permettre à ceux qui arrivent au collège, avec comme vous savez des fois l'échec scolaire et souvent ils savent à peine lire, de pouvoir leur permettre d'augmenter leur niveau, de pouvoir assurer jusqu'au premier emploi, c'est-à-dire tout au long du parcours, en primaire, au collège, au lycée. Et c'est pour ça que je vais ouvrir des antennes du service jeunesse, de façon à ce que dans tous les quartiers de la ville, on puisse avoir des antennes qui puissent accueillir nos jeunes pour du loisir, mais aussi pour qu'on puisse les aider, les soutenir pendant tout leur parcours. Les parents, ce qu'ils demandent, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est la réussite de leurs enfants. Et je pense qu'en tant que mairie, il y a des projets effectivement du gouvernement, les fameuses cités éducatives qui vont s'implanter. C'est sur du moyen terme. On ne sait pas trop aujourd'hui les moyens qui vont être alloués. Moi, je compte mettre les moyens dès maintenant, dès la rentrée scolaire au mois de septembre. La cantine à 1 euro, parce que j'estime qu'aujourd'hui,
ouais.
Le coût est trop élevé et surtout qu'ils mangent une meilleure qualité. C'est important pour moi.
Alors, Ali Méziane, Gaba Labina, Rudy Kazi promet d'être un maire à plein temps, un maire à 100% au service de ses habitants, de ses administrés. Gaba Labina, pour une question.
Moi, j'ai envie d'y croire parce que d'abord, il a vécu là-bas toute sa vie quasiment. Ensuite, parce que les questions fondamentales qui se posent dans les quartiers, j'ai été avec Clichy-sous-Bois, c'est vraiment une zone dévastée dans la mesure où il n'y a rien qui a été fait pendant 40 ans. On a planté les barrages, mais il ne s'est rien passé, du sable sur le sol, même pas de béton, des moyens de transport ridicules, enfin bref, la question du transport a été évoquée. Effectivement, il y a des risques sur le transport pour 2024 parce qu'ils sont déjà en train de réduire les budgets, on l'a entendu par rapport à Pécresse qui se targue d'avoir réduit une partie des budgets. Et effectivement, il y a la question de l'éducation parce que les parents, il faut jamais perdre de vue, j'ai eu l'occasion d'avoir des débats assez houleux avec l'extrême droite sur ces questions-là. Nos parents, ils n'aspirent pas à ce que les enfants ratent leur scolarité ou n'aient pas une belle vie. Ils aspirent à ce qu'ils aient une meilleure vie que la leur. Et tous les parents d'origine africaine, en règle générale, table beaucoup, mise beaucoup sur les études, et malheureusement, les établissements qu'on lui met à disposition sont ridicules. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur ce fameux lycée qui a les meilleurs résultats de France. C'est quel type de résultats? Parce qu'il faut jamais perdre de vue que Henri IV, c'est pas un lycée de banlieue, que tous les grands lycées parisiens auxquels on n'a pas accès, on n'aura jamais accès parce qu'il faut être riche, sont pas des lycées qui ratent leurs études. Quelle est cette réussite en dehors de l'encadrement, qui est certainement formidable, j'ai aucun doute là-dessus, en termes de transformation au bac? C'est ça qui m'intéresse. Parce que il faut pas laisser planer le doute. Il y a une exception, elle s'est vérifiée là-bas, a priori. Je la connaissais pas, c'est pour ça que je suis heureux de l'entendre. Mais encore une fois, c'est une exception qui confirme la règle. Les lycées de banlieue sont à l'abandon, c'est des ZEP, enfin les ex-ZEP, dont tout le monde se fout, et tous les profs qui y vont, ils y vont comme une punition. Donc, est-ce que, effectivement, quand vous serez maire, vous allez mettre l'accent sur cet accompagnement et sur redonner l'espoir à la jeunesse, parce que c'est l'espoir dont ils ont besoin.
Bien sûr.
Redonner une vision d'avenir.
Pour la question de Gamal Abidin.
Clairement, c'est pour ça que j'ai précisé dès le CP. C'est-à-dire que, pour moi, l'échec scolaire, si on le constate quand ils arrivent au collège, c'est parce qu'à un moment donné, au niveau du primaire, il y a eu un non-suivi. Ou alors, ce qui a été proposé n'était pas suffisant. C'est pour ça que je pense que, bien entendu, on ne va pas les obliger. Mais en tout cas, les parents qui désirent que leurs enfants puissent être suivis par des étudiants et des étudiantes, ça pourra se faire dès le CP, de façon à ce que quand ils arrivent en 6e, il y ait moins de lacunes. Parce que la réalité aujourd'hui, on est limitrophe avec des villes qui sont comme le Raincy et tout, avec des écoles privées, et beaucoup de familles à Clichy-sous-Bois, notamment, inscrivent leurs enfants dans ces écoles privées parce que le niveau est meilleur, parce qu'il y a un meilleur suivi,
oui.
Moyennant finalement. Voilà. Moi, je pense que l'école publique, elle est là aussi. Certes, c'est l'éducation nationale, certes, c'est eux qui recrutent les enseignants, mais nous, si, au niveau de notre politique éducative, on ne suit pas ses enfants dès le CP, franchement, ça sera un échec au collège. Parce que la réalité, c'est vrai, c'est que dès qu'ils arrivent en 4e, 3e, pratiquement 80% de leur avenir est déjà tracé. On sait plus ou moins comment ils vont finir.
Juste la question sur l'établissement. Qu'est-ce qui fait qu'il est
parti? Alors, qu'est-ce qui fait? C'est que, alors, le suivi, il est vraiment intensif. Ça veut dire que tous les jours, tous les soirs, le mercredi après-midi, il y a des assistants pédagogiques dans les différentes disciplines qui sont là, au service vraiment, et qui suivent ces jeunes-là. Que ce soit ceux qui ont un bon niveau, ceux qui sont vraiment en grande difficulté. Et on constate que, entre la seconde et le terminale, pendant les 3 ans, ils font en sorte que le résultat au niveau du bac, franchement, sont vraiment des résultats exceptionnels.
Rudy, s'améliore. Quasi pour la question, s'il vous plaît.
Oui, alors, voilà,
courte,
Rudy Stoblet, qui a été.
Il
y a des questions longues, je dois faire des questions courtes.
Ah oui, non, mais oui, mais si tout le monde joue le jeu, ça ira plus vite, tu vois ce que je veux dire.
Si on fait toujours les remarques aux mêmes personnes, ça n'avancera pas non plus.
Bon, bref. Parce que tu passes en dernier, voilà.
Bah, ouais, mais dans ce cas, faut me faire passer en premier.
Bon, là, on a perdu une minute, en fait.
Bah oui, mais c'est toi, c'est pas moi.
Alors vas-y, redis.
Alors, Clichy-sous-Bois, qui a été un théâtre, effectivement, malencontreux, avec, effectivement, la mort de Ziad Ebouna, qui avait donné lieu, effectivement, au soulèvement populaire des jeunes de quartier. C'est une question, deux questions en une. Est-ce que ça a laissé un certain traumatisme auprès de la jeunesse des quartiers à Clichy? Et aussi, comment est-ce que on peut reconstruire le dialogue avec les policiers? Mais je pars vraiment dans la zone Clichy, parce que eux aussi doivent aussi quelque part s'amender d'un comportement qu'ils ont pu avoir sur les 10, 20, 30 ans passés, et spécifiquement à Clichy-sous-Bois par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que ça pourrait pas être aussi le laboratoire d'un nouveau terrain, en fait, de discussion et de discussion entre jeunes et policiers pour bâtir quelque chose de nouveau et qui pourrait aussi s'étendre à d'autres quartiers à travers la France? Et comment est-ce que toi tu pourrais t'y impliquer en tant que maire?
Bien sûr, le traumatisme il est encore là, clairement, suite notamment aux décisions de justice où effectivement les policiers n'ont pas été inquiétés. Donc ça, c'est vrai que ça reste encore tous les ans au mois d'octobre. Il y a toujours cette commémoration très douloureuse pour la famille, pour les proches. Bien entendu, il y a le CLSPD, donc le Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance, qui effectivement réunit un peu tous les acteurs. On va essayer de mettre en place effectivement rapidement des cercles de discussion entre, notamment avec les antennes du service jeunesse, la prévention spécialisée, de façon à ce qu'effectivement ils puissent avoir ce dialogue et bien entendu être en contact avec le commissariat, la police locale, puisqu'on a une police municipale qui vient de commencer, de façon à ce que ce dialogue s'instaure. Mais c'est très compliqué, c'est très tendu quand même. Mais en tout cas, on fera tout pour aller dans ce sens-là, pour qu'il y ait un dialogue avec tout le monde.
En dehors des lieux traditionnels.
On dira des lieux traditionnels, voilà.
Trouver un autre terrain, passer par des leaders de quartier.
Exactement, c'est pour ça que moi, pour rejoindre ça, aujourd'hui, clairement, on parle des besoins primaires, hein, donc se nourrir, se loger, se vêtir. Dans ces besoins primaires, aujourd'hui, c'est quand je parle du... dans mon programme, quand je parle du soutien scolaire, du CP jusqu'au premier emploi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, une fois qu'ils ont eu le loisir et le soutien scolaire, c'est l'insertion. Aujourd'hui, on a eu le programme de rénovation urbaine où il y a eu beaucoup de chantiers, il y a eu des clauses d'insertion dans tous les marchés publics et privés. Beaucoup de jeunes n'ont pas.
Allez, voilà. Allez, c'est ça, je vais vous couper la parole. Parce que il est l'heure maintenant pour vous, s'il vous plaît, en guise de conclusion, de vous adresser aux habitants de Clichy-sous-Bois et en une minute de leur dire pourquoi il faut voter le 15 mars prochain. Abdel Ali Méziane, c'est à vous de jouer.
Bonsoir tout le monde. Donc le 15 mars, voter Abdel Ali Méziane pour le changement, pour la transparence, la vraie, et surtout pour l'éducation qui sera au cœur de mon programme, de façon à ce que nos jeunes puissent réussir et à s'insérer avec des formations que je mettrai en place et qui réussissent dans leurs études supérieures.
Merci Ali Méziane d'être venu nous voir. Quelle sera la première grande décision dès que vous arrivez à la mairie?
Première grande décision, c'est partenariat avec les entreprises afin de ramener de l'emploi à Clichy-sous-Bois.
Merci.
Développement économique.
Ali Méziane, à très vite et bon courage, bonne chance pour le 15 mars prochain. Pour cette élection municipale, donc du côté de Clichy-sous-Bois, demain nous partirons du côté de Kremlin-Bicêtre pour se revoir, inviter le maire sortant qui se représente. À demain et dans un instant, le quiz.
France Maghreb 2.
Le LGF extrêmement mouvementé ce soir et aujourd'hui. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a du monde en plateau. Merci à tous nos invités. Monsieur Gamal Abina, Rudy Kazi, ici présent pour les quelques dernières minutes et le quiz. Oui, ça fait longtemps. On prévoit d'ailleurs ce match. Apparemment, il y a même eu des pronostics de lancer sur le gagnant d'aujourd'hui.
Ah non.
Vous pouvez y aller. Si, apparemment, ça
Philippe, passe. Faut pas parier sur moi alors.
Le quiz, c'est parti, les amis.
Le quiz. Quiz.
Le quiz, évidemment, qui nous permet de réviser un petit peu l'actualité avec aujourd'hui à ma gauche, Gamal Abina. Ici présent, monsieur Rudy Kazi, à ma droite, pour évidemment s'affronter et répondre aux questions. On y va. La commission retraite, actuellement à l'Assemblée nationale, doit examiner combien d'amendements?
22 000
est une très bonne réponse. Bien. 22 000, dont 19 000 déposés par la France Insoumise. Bonne réponse. Alors c'est que ça va prendre du temps cette histoire. Voilà, 22 000 amendements. Premier point signé Rudy Kazi. Quel hebdomadaire lance un prix du dessin satirique destiné aux jeunes?
Libération.
Non. Aux jeunes dessinateurs amateurs âgés de 18 à 25 ans. Charlie Hebdo est une excellente réponse. 2-0 pour l'ami Rudy Kazi.
J'ai failli le dire.
Quel candidat au municipal à Paris veut interdire la trottinette?
Griveaux.
Non.
Hidalgo.
Non.
Villani.
Non, 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 pas Villani, non, non.
Dati.
Cherchez dans les un petit peu candidats farfelus, enfin.
Farfelus.
Oui. Pas farfelu.
C'est pas.
Jadot.
Non.
Non, non, pas farfelu. C'est un type de droite.
Non, c'est pas, je sais pas s'il est de droite ou il est. Voilà, c'est un monsieur qui s'est fait remarquer
dans la
en c'est... se fâchant avec Anne Hidalgo.
Fait la bouche. Pour la
non.
C'est pas fait la bouche.
Non, non. En rapport avec les forains, les amis.
Oh, je suis pas l'actualité.
Grande roue, tout ça, ça vous dit rien, la grande
si,
roue?
Si, son nom me sort de la tête, purée.
Marcel.
Duchamp, non, j'ai n'importe quoi.
Marcel.
Ah punaise, attends.
J'en ai aucune idée.
Oui, le PDG qui avait les grandes sociétés, les grandes roues, qui s'était battu avec
Hidalgo. Bigard a rejoint sa liste d'ailleurs.
Ouais, c'est lui qui avait, parce qu'il a eu des soucis, on lui a retiré
ouais,
sa
voilà,
grande roue.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
Et puis c'est sorti sur les homosexuels.
C'est qui? Aucune idée.
Marcel Campion.
Campion.
Oh là là, voilà.
Bon. Qui déclare, avec Zemmour, je suis de plus en plus en désaccord
Nolo.
Avec lui, mais. Je suis de plus en plus ami avec lui. Nolo est une bonne réponse. Ouais. Eric de son prénom.
Je vais m'écraser.
4-0, ça sent.
Le Fanny.
Ça sent, oui, le dur. Hein. Voilà. Ouais. Le géant américain a écopé.
Apple.
Amazon.
Amazon.
A écopé d'une immense amende pour justement. Voilà, pour pratique commerciale trompeuse par omission. À combien s'élève l'amende?
5 milliards?
Non.
10 milliards?
2 milliards?
Non, plus.
60 milliards.
Plus
50
non,
milliards.
Non, moins.
20 milliards.
50.
30 milliards.
Alors attendez. Moins que 30, plus que 25. 20.
25. 19 milliards.
25.
25, c'était déjà.
Merci, merci,
voilà. Bah oui.
Bah voilà. J'écoute, moi.
Bon, alors il y a un petit point de
marqué. Mais ça marche pas alors.
Quoi bah non, ouais. Il s'est trompé.
Je me trompais, tant pis pour moi.
C'est un trompage.
Voilà. En tout cas, voilà. 25 millions.
L'humiliation.
Dollars pour ce géant américain pour l'amende. J'avais une autre petite question. Tiens, ah oui. La dernière question pour la route. Où se trouve. Dans quel pays arabe se trouve aujourd'hui Bernard-Henri Lévy?
Marrakech.
Non.
Égypte.
Non.
L'Algérie.
Non.
Non, Tunisie.
L'Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite. Quoi? Est une bonne réponse, effectivement. Vrai. Il est là-bas. Oh, parti peut-être faire sa Ramallah pour lutter contre l'islamophobie. Je ne sais pas, mais en tout cas, BHL se trouve en Arabie Saoudite.
Mais non, mais parce que l'Arabie Saoudite est très bien vue dans le Conseil des Nations en ce moment.
Objectivement, il n'a pas le droit d'y être.
Mais il y a hier, je t'assure.
Non, mais non, à l'origine, il n'avait pas le droit d'y être parce qu'on ne laissait pas rentrer les. Mais bon.
En tout cas, champion. Alors, victoire, combien là? 5. 4-1 de Rudy Kasi, champion face à Gamal Avina, qui s'est pris une raclée
magnifique,
magnifique aujourd'hui.
Il y a Lupo qui vient me féliciter là.
Voilà, bravo Lupo.
Ah mais moi je te félicite, hein, t'es un bon. Hein.
Bravo mon Rudy, bravo.
Sur l'actualité,
bon,
je suis très mauvais.
Demain les amis, Boya qui sera là. Il y aura Rachidi Soraya, il y aura Dounia Tebaoui et Amin Radi, l'humoriste marocain qui sera avec nous. Et on partira du côté de Kremlin-Bicêtre pour recevoir et accueillir le maire sortant. Et parmi nos invités des municipales, c'est la première fois qu'on reçoit un maire sortant. Donc on va faire le bilan, et surtout très calmement, avec lui demain à partir de 17h30. Soyez fidèles au rendez-vous les amis. Bonne soirée dans un instant. L'ami Medjahed, il paraît que le Sipamien est tombé hier. Il y a un ordinateur portable et une enceinte Bose qui est tombée hier après-midi. Donc les amis, à part ceux qui disent que dans ce jeu on ne gagne jamais, eh bien la preuve est donnée. On gagne, la preuve, l'ami a gagné. Je ne sais plus d'où il est. Bon, en tout cas, bravo à lui. Bonne soirée à tous, restez bien branchés France Maghreb 2. Salut Rudy, salut Gamal.
Salut à plus.
Bonne semaine les gars. Et rendez-vous demain, il est 18h. Et vous êtes bien sur France Maghreb 2. C'est l'heure de l'information, le journal de Sophie Tarance. Bonsoir Sophie.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire ce soir, 13 départements toujours en alerte orange à cause de la tempête Ciara qui devrait continuer de souffler fort ce soir sur la Bretagne et la Corse. On ira également à Toulouse qui va devenir cette année l'une des premières villes françaises à avoir son téléphérique urbain. Et puis on prendra des nouvelles de Solar Orbiter, la sonde euro-américaine qui est partie de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride aujourd'hui, direction le soleil. La tempête Ciara, 13 départements restent placés ce soir en alerte orange. Les deux départements de Corse et les Alpes-Maritimes pour vent violent. La Seine-Maritime et l'Eure en vigilance inondation. Également une vigilance vague submersion sur une bonne partie du littoral de la Loire-Atlantique jusqu'au Pas-de-Calais en passant par la Pointe-Bretonne. À noter que 90 000 foyers sont encore privés d'électricité alors qu'un nouveau coup de vent est prévu dans la soirée. Alors à quoi faut-il s'attendre? Réponse avec Régis Crépé, prévisionniste à la chaîne Météo.
Il faut s'attendre à de fortes rafales de vent justement le long des côtes de la Manche et de la mer du Nord. Un petit peu comme hier soir, on peut avoir des pointes à nouveau à 140 km à l'heure sur la Seine-Maritime, du côté de Fécamp ou encore d'Étretat également pour la Haute-Normandie. Mais à la différence de la tempête Ciara à proprement parler, qui a véritablement soufflé la nuit dernière, ces rafales de vent perdent de l'intensité et perdront de l'intensité en rentrant dans l'intérieur des terres. Donc c'est plus un coup de vent côtier dans les terres, là ça perd un petit peu de vitesse et on sera plutôt avec des rafales de l'ordre de 90 km à l'heure, ce qui n'est pas anodin tout de même.
Un propos recueilli par Boris Karlamov, la préfecture de Corse qui demande aux habitants la plus grande prudence, éviter les déplacements si possible. Autre conséquence de la tempête Ciara, l'activité portuaire est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, aucun bateau ne rentre ou ne sort des ports corses. Quatre Français se trouvent à bord du navire placé en quarantaine au Japon. Le bateau est bloqué depuis une semaine dans le port de Yokohama en raison de cas de contamination par le coronavirus. Pendant ce temps-là, en Chine, le bilan de l'épidémie s'est encore alourdi. Il dépasse désormais les 900 morts avec plus de 40 000 personnes contaminées. Le président chinois Xi Jinping est lui apparu pour la première fois en public avec un masque sur le visage. Il a appelé à prendre des mesures plus fortes pour enrayer la contagion. L'autopsie de la petite Vanille doit avoir lieu aujourd'hui. Les résultats seront connus dans la soirée. Sa mère a reconnu devant les enquêteurs avoir tué son enfant de 1 an vendredi avant de jeter son corps dans une benne à vêtements à Angers. Mise en examen, elle devrait être déférée au parquet ce soir ou demain matin, selon le procureur. Après New York, Rio et Barcelone, Toulouse va devenir cette année l'une des premières villes françaises à avoir son téléphérique urbain avec 3 km de ligne. Ce sera même le plus long du pays, devant celui de Brest. Le chantier est en cours au sud de la ville. Sa mise en service est prévue pour la fin de l'année. Le téléphérique devrait au final transporter 8000 passagers par jour. Alors que Toulouse fait partie des villes les plus embouteillées de France, ce téléphérique n'a que des atouts, selon Francis Grasse, président de Tisséo Ingénierie, en charge de ce projet.
C'est un transport qui a la même caractéristique que le métro, c'est qu'il est fréquent et qu'il est rapide, 10 minutes. Bien sûr, on est protégé de la circulation automobile, donc on n'est pas comme dans un bus ou dans un tram, on n'a pas de perturbations liées à la circulation. C'est C'est un système économe en énergie qui produit 30 fois moins d'énergie que l'automobile. Donc on est sur le système le plus écologique qui soit. Et là, on aura une vue exceptionnelle d'un côté sur les Pyrénées lorsqu'il fait beau et de l'autre côté sur Toulouse. Je crois que ça sera aussi un intérêt, en dehors de se transporter rapidement, d'avoir cette vue exceptionnelle.
Mais le coût de ce téléphérique est estimé à plus de 82 millions d'euros. Lancement prévu fin 2020. Le rugby, coup dur pour Vincent Rathez. L'ailier tricolore, sorti hier sur blessure lors du match France-Italie, souffre d'une fracture du péroné. Verdict sans appel. Tournoi destination terminé et fin de saison compromise pour le joueur de La Rochelle. Tennis, Gaël Monfils gagne une place au classement ATP. Le Français est désormais 8e joueur mondial après sa victoire hier au tournoi de Montpellier. Et puis enfin, lancement réussi pour Solar Orbiter. La sonde euro-américaine est partie de la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. Direction le Soleil avec une mission bien précise. Jean-Damien, tenter de comprendre comment il fonctionne.
Oui, lancement un peu plus d'un an après la NASA. Alors concrètement, Solar Orbiter, c'est 6 caméras qui vont pouvoir photographier l'astre de près et notamment sa face cachée. Alors malgré cela, la distance reste importante, 42 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Mais le but, c'est de comprendre les phénomènes météo qui se produisent, mais aussi leurs conséquences, pour ainsi espérer anticiper la prochaine grosse tempête solaire. La dernière remonte à 1859 et avait fait griller tous les réseaux télégraphiques. Il y a 8 ans, une tempête solaire avait causé quelques frayeurs, mais heureusement, la Terre n'était finalement pas sur son passage.
Et la mission Solar Orbiter devrait durer 7 à 10 ans. Excellente soirée à tous.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.